Bienvenue dans le Paris Central Show. Nordi Mukele débarque au PSG et il y a un petit chroniqueur congolais qui a l'air très très content. Vous voyez dans le ciel de Paris avec son maillot du Congo. Bienvenue Nordi Mukele. Et vous avez Zedrias à côté qui comprend pas ce qui se passe. Il est perdu. Bienvenue Nordi Mukele. On donne sa parole à Barry, il a l'air très content. Vas-y Barry.
Ouh,
il va être intenable.
On dirait qu'il va jouer pour l'équipe nationale du Congo.
Oui. Les gars, après Presnel Kimpembe, après Lionel Messi, après Kylian Mbappé, un quatrième Congolais au PSG. Mukele, les gars. Le quatrième.
T'as oublié le cinquième, t'as oublié Paredes.
Vas-y, Adrien.
T'as oublié le cinquième, t'as oublié Paredes. Parce que je crois qu'il est aussi Congolais aussi.
Non, il est argentin, il est argentin.
Là, il a des faux airs de Congolais, Paredes.
Oui, je trouve aussi, ouais.
Bon, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Nordi Mukele hors de caméra moi. Vas-y Dries.
Moi je pense c'est... après il y a des inquiétudes qui viennent avec des avec ses tweets de quand il avait 16 ans et tout ça. Moi je connais pas assez, je c'est le genre de truc quand tu fais ça à 16 ans, je vais pas le prendre en compte. En tant que joueur, il est utile. Il est utile parce qu'il peut y suppléer deux postes. On était en PLS, il y a Kimi se blesse, qu'est-ce qui se passe, etc. Ben, il y a Mukele et il peut aussi rendre service à droite. Donc, c'est, à mon avis, c'est un bon joueur de complément. Après, je suis un peu plus inquiet par rapport à ses déclarations, mais ça, on reviendra dessus après.
Barry,
Déjà, Mukele, à partir du moment où il a signé, il devenait le meilleur joueur à droite, hein, que ce soit au poste d'Hakimi ou en tant que axe droit. Non, plus sérieusement. En vrai, sans faire de vannes, etc., c'est une vraie bonne nouvelle. Après, pour être tout à fait franc avec vous, j'ai énormément de réserves avec lui. Par contre, j'ai énormément d'attentes auprès de lui et je sais qu'il peut apporter énormément au Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que j'ai énormément de réserves. Dans les points positifs, ce que je dirais, et je pense qu'on est à peu près d'accord dessus, Hakimi au Paris Saint-Germain, j'en ai parlé tout à l'heure dans un space. Hakimi au Paris Saint-Germain, sa saison dernière, pour moi, elle n'est pas au niveau. C'est-à-dire qu'elle n'est pas au niveau de ce que Hakimi devrait nous donner. C'est-à-dire que Hakimi, pour moi, est aujourd'hui l'un des meilleurs latérales et un des meilleurs pistons du monde à son poste. Tu vois, à droite, clairement, pour moi, il est dans le top 5 et il n'est pas 5e. Tu vois ? Et sa saison, pour moi, elle est en demi-teinte. Après, oui, on me dira, non, mais on l'a pas fait jouer à son poste. Oui, mais il est piston. Oui, mais il est je sais pas quoi, patati, patata. Moi, il y a des choses sur Hakimi qui, pour moi, ne sont pas imputables aux autres. C'est-à-dire que je veux bien, on va en parler, on va en discuter. Je pense que, voilà, on a quand même un live qui va durer assez de temps. Mais il y a certaines choses où on va dire, oui, c'est la faute de Pochettino. Oui, mais c'est la faute des milieux qui couvrent pas. Oui, tout ça, c'est une réalité. Mais il y a certains trucs que Hakimi a fait. Pour moi, je suis pas d'accord avec vous. Alors attention, Hakimi pas au niveau, t'es fou. Alors attention, Hakimi n'est pas au niveau par rapport au niveau qu'il a affiché à l'Inter. C'est-à-dire que Hakimi devrait nous donner beaucoup plus que ce qu'il nous a montré. Et si vous vous contentez de ça, les gars, je suis désolé, mais c'est vous qui avez un problème. À un moment, faut arrêter aussi cette mentalité d'irréprochable, d'intouchable, etc. Il y en a 5 au Paris Saint-Germain et ça commence à m'énerver. Et après, je vais donner la parole. Il y a Neymar. Neymar, dès qu'on parle de lui, c'est vous tirez sur Neymar. Ça, c'est plus possible. Le deuxième, c'est Nuno Mendes. Nuno Mendes, qui est un joueur que je surkiffe, vous savez tout ça. Mais dès qu'on dit quelque chose sur Nuno Mendes, il a fait un mauvais match. Non, on ne peut pas parler de Nuno Mendes. Ça, il faut arrêter. Il y avait Marquinhos. Marquinhos, depuis Madrid, les gens commencent à l'attaquer. Donc là, à la rigueur, Marquinhos, ça a changé. Il y avait qui ? Il y a Verratti. Verratti, quand il fait un mauvais match, on n'a pas le droit de le dire. Et le dernier joueur, c'est Hakimi. Hakimi, dès qu'on dit qu'il a fait un mauvais match, on dirait on vous a insulté, les gars. Donc il faut arrêter cette mentalité d'intouchable, etc. Et je pense que l'arrivée de Mukele va remettre de la concurrence et va dire à Hakimi de « Eh, faut que je montre que je suis talentueux et que j'ai du talent et que le Paris Saint-Germain a besoin de ce talent-là, justement. »
Je peux contredire un petit peu Barry.
Vas-y.
Il vient de dire des trucs. Alors déjà, Hakimi, il commence la saison dernière par un très, très bon début de saison. Très décisif, très utile sur son aile. Et ensuite de ça, bah ouais, en effet, c'est un piston, il n'a jamais joué à 4 derrière, il se retrouve à 4 derrière. Et ce qui se passe ensuite, et il ne faut pas l'oublier, tu as une crise de confiance qui intervient chez le joueur. Bah, c'est vu, il y a des fois où vous devez centrer, il ne centrait plus. Et il faut rajouter un facteur essentiel, c'est la grande capacité, mais méga reconnue du Paris Saint-Germain, de savoir écarter sur les ailes. Donc, tu avais un Hakimi qui te faisait des appels à rallonge au début, qui n'était jamais servi. Au bout d'un moment, ça finit par lui taper sur le ciboulot. Et il finit la saison effectivement dans les fraises. Maintenant, ton Hakimi, tu veux le faire jouer, bah, va falloir peut-être apprendre à exploiter tes ailes. Et ça s'explique pas vraiment que par le joueur. Il y a un moment où, en effet, à sa place, j'aurais aussi perdu confiance, quoi, dans cet effectif et dans la manière avec laquelle on jouait.
Moi, je suis
Mais
désolé, hein,
moi j'ai juste
non,
une
mais
question pour vous. Vous avez l'air persuadé que Mukiele, il vient pour concurrencer Hakimi. Mais excusez-moi, il peut jouer à deux postes. Ça voudrait peut-être dire, comme la question est passée tout à l'heure, que peut-être que Skriniar, il va pas venir. Parce que moi, de ce que je disais à Dreyas tout à l'heure en off, ah, c'est un mec, il a dit, moi, je viens à Paris pour jouer en équipe de France carrément. Donc, à mon avis, il vient pas pour être remplaçant. Donc, c'est soit il pense qu'il est devant Hakimi, soit il pense qu'il va jouer axe droit.
Après, moi, comment je la prends, comment dire, cette déclaration? Bah, je ne viens pas pour faire figuration, j'ai envie de m'imposer tout simplement. Moi, c'est comme ça que je la prends, personnellement. Et quand tu t'imposes au Paris Saint-Germain, tu rentres en équipe de France. Mais pour revenir à ce que tu disais, Dreas, moi, je suis d'accord avec vous hein, sur le cas Hakimi. Hein. Je ne suis pas en train de tirer sur Hakimi. Hein. Moi, Hakimi, comme je l'ai dit, la première chose que j'ai dit, c'est un des top latéral piston. Pour moi, c'est l'un des meilleurs à son poste, clairement. Il y en a deux, trois qui sont devant lui et pas plus. Mais à un moment, je suis désolé, mais il y a des joueurs, ça m'énerve les mentalités d'intouchables. À chaque fois, quand on parle
Non,
d'Hakimi, on lui
mais
trouve
moi,
toujours
je
des. Non, Hakimi, on lui trouve toujours des excuses. Je suis désolé, mais Hakimi, on lui trouve
Mais
toujours
c'est
des
pas des
excuses.
excuses.
Si, si, si,
C'est des
si,
excuses
si,
quand
si.
t'as un métier
Attends,
et
je
une mémoire.
finis, je finis,
T'as
Dreas,
compris.
je finis. Hakimi, on lui trouve toujours des excuses. C'est soit la faute de Pochettino, soit parce que Di Maria ne lui donnait pas le ballon, soit parce que Messi ne lui trouvait pas le ballon, soit parce que je sais pas quoi, soit parce que je sais pas quoi. Il faut arrêter un moment. Moi, à un moment, moi, je me rappelle, j'ai fait beaucoup de live l'année dernière sur le cas Marquinhos, et je me rappelle que Marquinhos avait énormément de gens qui lui tiraient dessus. Mais au bout d'un moment, je suis désolé, mais quand tu montes et que tu redescends pas, derrière c'est ta charnière qui prend. C'est pas, je sais pas qui, c'est pas l'équipe adverse qui va prendre, c'est ta charnière qui va prendre. Quand moi je vois Marquinhos se retrouver à la position d'Hakimi, parce que Hakimi ne fait pas son retour. Pourquoi personne le dit ça? Mais ça arrivait plein de fois ça. Ça arrivait énormément. Et la personne sur qui on tirait, c'était jamais Hakimi, c'était Marquinhos. Alors que Marquinhos, il se retrouvait face à un milieu et un attaquant qui ne rêvait que de l'envoyer à une position qui n'était pas la sienne. Mais ça, bizarrement, personne ne le disait sur Hakimi. Tout le monde disait c'est la faute de Marquinhos.
Mais je vais même aller plus loin que toi, là. Tu sais, par exemple, au début, c'était, tu avais un truc, c'était les entraîneurs étaient en train de targeter le côté gauche parce qu'il y avait des faiblesses de Nuno. Nuno a
C'est
résolu.
pareil.
Non, mais laisse-moi finir. Nuno a résolu ça et ensuite de ça, bah, tout est passé du côté d'Hakimi. Mais en effet, tu prends Hakimi pour être en une défense à 4, bah, peut-être on s'est dit, tiens, ça va peut-être marcher. Le mec ne sait pas faire. Point. Donc après, si tu veux, tu peux être en mode. Moi, je suis pas en train de dire, c'est de la faute de Marquinhos. Et j'étais le premier à dire, au niveau de Marquinhos, attention, il y a un moment où lui aussi, il a fait. Lui, c'est pas une crise de confiance, c'est un burn-out total, parce qu'il était obligé de couvrir l'axe, son côté, et il pétait un câble dans tous les sens. Mais il y a un moment où, si tu veux, Hakimi, tu vas pas lui reprocher de pas savoir faire ce qu'il sait pas faire. Ça a aucun sens. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu enfin, c'est un reproche qui a pas de sens. Après, Hakimi, tu peux lui reprocher. Moi, ce que je vais lui reprocher, c'est que les rares occasions qu'il avait, ben, il n'était pas décisif, il n'avait pas d'impact sur son côté. Mais là encore, faut contextualiser. C'est pas forcément chercher des excuses que de contextualiser le truc. Quand tu as un Messi et un Neymar qui sont juste amoureux de l'axe, qui te cherchent en permanence à s'empiler dans l'axe sans jamais écarter sur les ailes, que t'as tes latéraux qui font, mais combien de fois t'as pu voir la saison passée Hakimi sur l'aile, prêt à être servi et ne jamais être servi. Quand t'avais Di Maria qui se recentrait en permanence, t'avais Hakimi qui était sur l'aile comme un pauvre chien comme ça, qui était bon, bah, à quoi je sers sur le terrain? Donc il y a un moment où, si tu veux, c'est pas lui chercher des excuses, c'est contextualiser. Maintenant, s'il n'apporte pas satisfaction dans une défense à 5, eh ben ouais, là, tire-lui dessus. S'il n'apporte pas satisfaction alors qu'il est servi sur les ailes, ouais, là, servi dessus. Mais si tu l'utilises enfin, n'importe comment par rapport à tes qualités, bah, lui tomber dessus, je trouve ça déplacé.
Alors, après, je te suis, hein, je te suis. Offensivement, Hakimi, pour moi, je le répète encore, est un des top players. Après, oui, quand tu dis qu'il n'a pas été décisif, je suis d'accord avec toi. Après, là, on va me dire encore, oui, mais on ne l'a pas servi, patati patata, oui, mais
Eric,
il y a d'autres manières d'être servi par les appels, etc. Donc,
c'est pas mignon.
sur d'autres choses. Sur d'autres choses. Ce que je dis pour Hakimi est valable aussi pour Nuno Mendes, sauf que Nuno Mendes l'a corrigé au fil de la saison. Moi, je veux bien que vous me dites c'est pas son poste, c'est les pistons. Je suis d'accord avec vous. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais les replis défensifs, je suis désolé, ça ne demande pas d'être un piston. Ça ne demande pas d'être je sais pas quoi. Les replis défensifs, c'est ton poste. À un moment aussi, il faut arrêter de toujours trouver des excuses. Moi, je veux bien. Hein, mais écoute, quand on arrivait, on mettait les deux premières saisons, on mettait des fois Mbappé numéro 9. Mbappé, à cette époque-là, il ne savait pas faire les choses de numéro 9. Pourtant, il lui tombait dessus. Alors pourquoi Hakimi, qu'on met latéral et qui est un des top players, dès qu'on va lui dire quelque chose, vous dites il sait pas faire. Ne me dis pas qu'il sait pas faire, il a été formé en tant que latéral. Dis-moi qu'il est pas bon dans ça. Dis-moi qu'il est pas bon dans ça. Tu me dis qu'il est pas.
Mais je te le dis, il est pas formé en tant que latéral. Et d'ailleurs, quand il est au Real, Zidane l'aligne 2-3 fois, puis c'est basta. Dès qu'il arrive à Dortmund, il a toujours joué dans un système à 5, Hakimi. Il a toujours fonctionné dans un système à 5. Et après, si tu veux comparer avec Nuno, mais ça n'a rien à voir. Nuno, c'est un joueur, c'est un furieux classe, le mec. Il a trois cerveaux par orteil. Le mec, il s'adapte. Et Nuno, de toute façon, n'a jamais, et d'ailleurs, n'a pas les qualités d'Hakimi, n'a pas les qualités de percussion d'Hakimi. Et c'est juste, c'est un mec qui sait se recentrer. T'as des joueurs, tu peux effectivement discuter au niveau stratégique. Hakimi, tu peux pas attendre ça de lui. Moi, la seule chose que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, c'est ne va pas reprocher à un joueur de ne pas avoir des qualités qu'il n'a pas. Vous savez dès le départ qu'Hakimi.
Ah, merci.
Tout droit.
J'allais vous couper, mais boucle de Denis m'a devancé. C'est un débat Hakimi ou Moukele ce soir. C'est quoi votre problème avec Hakimi ce soir?
Je vais te dire pourquoi je parle.
Tu dis que je lui cherche des excuses alors que je ne cherche pas des excuses. C'est juste que.
On va parler d'Hakimi. Tout le monde veut parler de Moukele. C'est quoi ces histoires-là?
Tu vas comprendre pourquoi je te parle de Hakimi. Vous allez très vite comprendre. Parce que moi, ce que je reproche à Hakimi, et c'est même pas un reproche en vrai de vrai, parce que c'est un joueur que je surkiffe. Déjà, la première chose que je reproche, c'est pas lui, c'est pas de son fait. C'est que moi, ce que je reproche, c'est la mentalité des intouchables. Déjà, ça m'énerve. Mais bon, ça, c'est autre chose. Non, moi, ce que je reproche à Hakimi, c'est que bien souvent, il monte et il ne redescend pas. Et derrière, c'est sa défense qui est à la rue. Alors oui, tout à l'heure, j'en parlais, on m'a dit, ce que j'ai dit, que les milieux ne coulissaient pas assez. C'est vrai. Le seul qui le faisait, c'est quand Herrera était sur le terrain. Mais Herrera, c'est une quiche. Donc voilà, le seul qui le fait, c'est Herrera. Donc ça, d'accord, ça, c'est pas de son fait. On est d'accord, Adrias. Le seul qui le fait, c'est Herrera. Ça, ce n'est pas de son fait. Ok. Au match aller contre Madrid, c'est Danilo qui l'a fait. Ok, pas de souci. Moi, ce que je reproche, c'est de monter en ne vérifiant pas si Nuno Mendes est monté, parce que normalement, c'est ça, un latéral. Quand l'autre latéral monte, l'autre reste plus bas. Pour ensuite, si derrière tu manges une contre-attaque, tu as une sorte de défense à la rigueur à 3 si ton 6 est un peu trop haut. On est d'accord ou pas? D'accord. Donc lorsque Hakimi monte, il ne fait même pas attention si Nuno Mendes est monté. Donc déjà, c'est ça le premier problème. Le deuxième problème, c'est que lorsqu'il monte, il ne redescend pas. Et donc derrière, tu laisses ta charnière défensive à la rue. Et pourquoi je vous parle de Hakimi alors qu'on doit parler de Moukele? C'est pas pour dire que Moukele est meilleur que Hakimi. Loin de là. Hakimi est 1000 fois meilleur que, pas 1000 fois, mais 100 fois meilleur que Moukele. Ça, c'est un fait. Par contre, Moukele, défensivement, il est meilleur que Hakimi. Et donc, je pense que l'arrivée de Moukele au Paris Saint-Germain va obliger Hakimi à travailler sa défense. Alors oui, maintenant, en passant au système à 3, il n'y aura plus le problème de derrière. Il aura moins besoin de redescendre. Mais dans tous les cas, il va quand même falloir qu'il fasse les efforts à certains moments et qu'il commence à connecter son cerveau, où lorsque je monte, je vérifie si le piston à gauche est monté. Lorsque je ne monte pas, est-ce que Nuno Mendes est monté? C'est ça que je te dis. C'est pour ça que je parle de Hakimi sur le cas Moukele. Là, on va revenir sur le cas Moukele.
Pour Moukele, le gros avantage de Moukele, c'est simple, c'est que c'est un joueur qui connaît très bien les systèmes à 3, qui est capable de jouer effectivement piston droit, mais qui est aussi capable de jouer central droit. Le grand problème de Moukele, c'est qu'il ne s'est jamais imposé à Leipzig. Donc après, le mec, s'il vient pour s'imposer à Paris, bah, t'as quand même un petit problème.
Moi, le gros problème avec Moukele, pour moi, et je suis d'accord avec toi, c'est largesse défensive. Pas ses errements, pardon. C'est un truc qu'on a reproché longtemps à Kimpembe. Tu vois, cette manière de toujours, des fois t'as l'impression qu'il est pas connecté, tu vois, il connecte pas son cerveau, et donc il a des largesses des fois de tactique ou même défensivement, tu vois. Défensivement, je le trouve meilleur qu'Hakimi, mais des fois il a des largesses qu'il ne devrait pas avoir. Après, comme je dis, c'est un joueur qui a du potentiel. L'avantage, c'est que de base il a été formé en tant qu'axe droit. À Leipzig la saison dernière, il a joué pas mal piston. Donc forcément, ça fait une complémentarité, mais rien à voir. Une polyvalence qui serait parfaite au Paris Saint-Germain avec le nombre de blessures qu'on a. Par contre, oui, j'ai du mal à voir Mukiele actuellement comme un titulaire. Mais il peut le devenir. Ça, c'est... Il a le talent pour, en tout cas.
Ce qui part dans les commentaires, on me dit, est-ce que Mukiele qui arrive, ça veut dire que Skriniar ne viendra pas selon vous?
Bah, ça serait une catastrophe.
C'est ça.
Voilà. Je sais pas, moi, mais même moi, mais là-dessus, mais après, je sais pas si c'est le sujet ce soir. Là-dessus, pour moi, Skriniar, en fait, est même pas suffisant, quoi. Et là, je vais hurler Barry, mais je vais pas, je vais pas mettre les premiers billets. On va attendre la suite des billets pour les mettre.
Moi, je suis d'accord avec toi sur le cas Skriniar. Pour moi, il manque un milieu avec un gros volume de jeu qui pourra compenser certaines choses et qui pourra fermer certaines brèches. Alors oui, Vitinha, etc., j'entends bien, mais je pense qu'il va manquer certaines choses. Et juste, pour le cas Skriniar, tout à l'heure, j'ai vu un truc passer dans ma TL. Apparemment, il y aurait un rendez-vous entre le Paris Saint-Germain et le truc demain. Donc, à voir si des personnes le confirment. J'espère, en tout cas. Moi, j'espère que c'est vrai.
Ça fait plusieurs fois qu'on entend ça.
Moi, je vais vite faire rebondir sur ce qui me pose problème depuis deux jours, en fait, depuis le dernier match qu'on a vu. Juste pour recontextualiser très rapidement, contre Quevilly, on remarque très bien, tu as Marquinhos qui est clairement derrière, et tu as même les deux centraux qui sont, je crois, Ramos et Kimpembe, qui sont extrêmement écartés, très proches de la ligne avec une grande distance. C'est testé en première mi-temps, mais c'est par moments, ils ont tendance à se recentrer. Ensuite de ça, les matchs suivants, c'est une organisation de la structure défensive qui est un peu moins ambitieuse, où tu te retrouves avec Marquinhos. D'ailleurs, c'est sur le troisième match, c'est seulement en fin de match parce qu'il rentre seulement dans le match, mais tu te retrouves avec Marquinhos qui est libéraux et les deux autres légèrement devant. Et par contre, sur le tout dernier match, tu te retrouves avec les trois en ligne. Et ce que moi, ça m'a illustré, ce que l'impression que ça m'a donné, c'est que l'encadrement s'est dit avec ces trois-là. Avec ces trois-là, on est incapable de jouer à trois. Je renonce à animer l'animation défensive à trois, qui est pourtant quelque chose d'essentiel. Parce que quand tu défends à trois, tu ne peux pas être les trois sur la même ligne, sinon tu n'as pas de pressing, tu ne couvres pas les diagonales, c'est une catastrophe. Et donc moi, j'en arrive à la conclusion que non seulement il faut Skriniar, mais que Skriniar, ça ne suffit pas. Parce que là, il y a les matchs de Ligue des Champions qui arrivent en septembre, il y a les matchs de Ligue des Champions qui arrivent en octobre, tu n'as pas le temps de bosser. Tu as besoin de recruter deux spécialistes au poste, un à droite et un à gauche. Et je pense que pour moi, si on est intelligent, si on veut jouer à trois et ne pas finir avec la tête dans le mur, parce que à mes yeux, là-dessus, la maison, elle est vraiment en train de brûler, tu es obligé de vendre Kimpembe pour acheter un Gvardiol ou un Potores.
Ok. Dans les commentaires.
Là, je suis désolé, mais à un moment, les gars, va falloir commencer à parler football. Je peux comprendre que tu n'aimes pas Kimpembe.
J'adore Kimpembe. Je l'ai longtemps King Pembe.
Je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre que tu n'aimes pas son niveau de jeu ou quoi que ce soit. Mais moi, un truc que tu ne comprends pas, et c'est un truc que je vois passer dans ma TL depuis des semaines. Mais en quelle année Potores est meilleur que Kimpembe, les gars? Mais sérieux, les gars.
Je dis pas qu'il est meilleur. Dit qu'il était meilleur. Je dis juste que lui comprend les enjeux d'une défense à trois. Toute la problématique d'animation d'une défense à trois que Kimpembe a priori ne comprend pas. Pour l'instant.
Moi, ce qui m'a dérangé sur les matchs de la tournée. Bon, après on en parlera après. Tu vois, on devait faire le bilan. Mais je suis d'accord avec toi. Les trois ensemble, c'est pas possible. Ramos, Marquinhos et Kimpembe. Je suis désolé, mais des séquences de jeu premier match où Ramos se fait prendre dans le dos. C'est arrivé trois fois et Marquinhos n'arrivait pas à les anticiper. Alors que c'est Marquinhos qui est censé les anticiper, vu que c'est lui qui a la position des libéraux. Et Ramos aussi est censé anticiper la profondeur aussi. C'est pas possible que des mecs de ce talent-là, avec cette expérience-là, peuvent se prendre quatre fois dans le dos, c'est pas possible. Et donc, moi, j'avais un problème. Alors, c'est la première fois qu'ils étaient alignés les trois ensemble. C'était la première fois, ils avaient fait peut-être deux, trois entraînements ensemble. Je veux bien l'entendre. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Drias. Moi, je pense que Skriniar doit venir. Il doit venir et c'est même pas. Il faut qu'on le fasse. On n'a pas le choix. Là, si tu fais pas Skriniar, tu te retrouves avec les trois là. Je dis pas qu'ils sont mauvais. Hein. C'est des très bons défenseurs, mais c'est des défenses à deux, quoi. C'est pas des défenses à trois.
Mais j'insiste sur un truc, c'est qu'une défense à trois, en fait, si tu as les trois qui sont en ligne, tu couvres pas tes diagonales, tu peux pas organiser ton pressing. Tu es obligé d'avoir soit un qui est un petit peu devant, un petit peu comme Tourelle faisait avec Marquis qui était devant, soit un qui est un petit peu derrière, comme Marquis, comme ça a été tenté au niveau de l'organisation. Mais si tu te retrouves avec les trois en ligne, tu couvres pas tes diagonales, t'es en PLS. Et pourquoi ça? La première chose, c'est que t'es obligé de te mettre en V, mais pourquoi est-ce qu'ils abandonnent? Pourquoi ils le font pas travailler? Parce que quand t'es en V comme ça, pour jouer le hors-jeu, c'est tout d'un coup, c'est vachement plus compliqué de t'aligner et de te retrouver sur la même ligne. Et a priori, les mecs n'arrivent pas à le faire, et c'est pour ça qu'ils les ont mis en ligne. Mais si tu les mets en ligne, t'es bloqué. Et je suis désolé, mais par rapport au time frame qu'on a, pour moi, à mes yeux, Skriniar ne suffira pas. J'insiste. On va prendre l'eau. Dès qu'on va rencontrer une équipe qui aura un pressing un tant soit peu organisé, pas comme les Japonais qui venaient grosso merdo, c'était pas grave s'ils en prenaient 6, même s'ils en marquaient 2. Dès qu'on va se prendre une équipe qui aura un pressing un tant soit peu organisé, on va prendre l'eau.
Juste, par rapport à ce que tu dis, pour moi, le problème, c'est ni Ramos. Enfin, Ramos, c'est un mini problème parce qu'il n'a pas su comment gérer la profondeur. La fouet s'est fait prendre dans le dos. Pour moi, le vrai problème, c'est Marquinhos sur ce cas-là. Parce que Marquinhos, il faudrait qu'il accepte de soit jouer plus bas, soit jouer plus haut. Parce que je suis désolé, hein, mais je sais que les gens vont dire « Ouais, mais c'est un tes chouchous d'après ce que je lis sur les réseaux. » Mais lorsque Danilo a joué libéro, il a mieux occupé le poste que Marquinhos. Il a mieux pour moi, tactiquement, il a mieux occupé le poste que Marquinhos. Lui, il faisait la passerelle entre la charnière centrale, les deux derrière, et le milieu de terrain. Et tu vois, ça faisait avec Danilo, ça faisait une sorte de 2-1, 3-1 et 2. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu avais Danilo qui faisait la passerelle entre les deux. Sauf que Marquinhos, lui, il se positionnait sur la même ligne que les autres. Et moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, soit tu décides de mettre ton libéro beaucoup plus bas. Soit tu décides.
Mais après, on change de sujet parce que ça fait 20 minutes qu'on est là-dessus.
Soit tu décides de mettre ton libéro beaucoup plus bas. Et donc là, forcément, tu vas te dire que ton libéro va devoir moins anticiper. Ça va être plus facile pour lui. Soit ton libéro joue un peu plus haut. Et donc là, forcément, il doit participer aux tâches de création de jeu quand il reçoit le ballon. Il doit couper les pressings adverses en cas de pressing. Et surtout, il doit anticiper sa défense. Donc c'est soit ça, soit l'autre. Moi, personnellement, je pense qu'avec Marquinhos, on devrait peut-être le mettre au-dessus de la charnière centrale parce qu'il a quand même un volume de jeu qui serait assez intéressant dans une sorte de 6 hybride qui ferait la passerelle entre les deux. À voir. Je ne sais pas, t'en penses quoi, mais moi, je serais plus
de ce avis-là. Il faut qu'on change de sujet. Après, j'aurais eu à réagir, mais Nix veut qu'on change de sujet, donc on va
ouvrir. Parce que là, on tourne un peu en rond. Je vais regarder un peu ce qui se passe dans les commentaires. Y a la même question qui revient à chaque live. Qu'est-ce que vous pensez de Fofana? On a déjà étudié en long et à travers. Basto est contre, Zedria c'est contre. Je crois, par contre, on n'a pas eu l'avis de Barry. Donc, donne ton avis rapidement, Barry.
Moi, je suis ni contre ni pour, en fait. Moi, je veux juste savoir comment on va l'utiliser. C'est bien beau de parler de Fofana. Et oui, ça pourrait être intéressant sur papier, mais comment tu veux l'utiliser? C'est ça, moi, la question. Franchement, je le vois mal s'implanter dans un 3-5-2. Je le vois mal s'implanter dedans. Après, je peux me tromper. Je pense que si tu mets un milieu à 3, il serait très intéressant. Dans une défense à 3, un milieu à 5, je ne sais pas.
Il y a Septinard qui nous dit dans un système 3-5-2, est-ce que Mukele va sauter Hakimi? Je pense que c'est plus pour de la concurrence et il va dépanner aussi dans l'axe. Et il y a Gribert qui nous dit ce serait bien que vous tacliez un joueur comme Neymar comme vous faites pour Hakimi. Alors Gribert, s'il te plaît, je t'ai déjà vu régulièrement sur la chaîne. Je pense pas qu'un joueur qu'on tacle plus que Neymar ici. Enfin, en tout cas moi personnellement, il n'y a pas un joueur que je tacle plus que lui. Après je sais pas pour les autres.
Surtout en Gribert, la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé mon argumentaire sur Hakimi, c'est que j'ai parlé des 5 intouchables et Neymar était dans les intouchables. Si tu veux qu'on parle de toute façon, on va faire le bilan de la tournée japonaise, donc t'inquiète pas que Neymar il va en prendre pour son grade. T'inquiète pas.
Bah du coup, vu qu'on était sur la défense, qu'est-ce que vous avez pensé de notre défense lors de la tournée japonaise? On va essayer de faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé.
Bah, que des choses ont été tentées pour essayer d'animer une défense à 3, et comme c'était pas possible, l'encadrement s'est dit tiens, on va faire une ligne de 3, au moins ils comprendront, et t'auras pas de hors-jeu, mais c'était catastrophique. Voilà pour un résumé.
J'ai trouvé Danilo pas intéressant en poste de libéro. J'ai trouvé que Diallo a fait ses matchs, même s'il peut mieux faire. Après clairement, tous les autres, et je suis même choqué de le dire, mais Ramos qui se fait prendre dans le dos après des années de carrière, plus de 10 ans de carrière, c'est pas possible. Marquinhos qui n'anticipe pas, c'est pas possible. Et Kimpembe qui se fait prendre dans le dos, c'est pas possible. Alors, c'est le premier match de la saison, donc on ne dira rien. mais on a quand même pris 3 buts face à des équipes dont le 17e du championnat de la J-League. Il me semble qu'on a pris un but contre le 5e et un match où on n'a pas pris de but. Donc c'est quand même énorme quand même.
Et sur Danilo, juste pour préciser, Danilo, ça a commencé de la même manière qu'avec Marquinhos. Les deux ont été tentés et les deux, ça a fini. Dans les deux cas, ça a fini avec une ligne de 3. C'est-à-dire que Danilo n'apportait pas plus de garantie que Marquinhos. Et la problématique, elle venait pas du libéro. Si Marquinhos remontait, c'était pas parce qu'il le voulait. C'était juste que c'était les consignes qui évoluaient parce que, bah, on prenait tout le temps des hors-jeux. Enfin, on se faisait tout le temps prendre au piège du hors-jeu.
Ah, ouais, bonne question. Okay. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prépa de Vitinha?
Très intéressante. Très intéressante. Il a eu un match sans, c'était le deuxième match. Mais c'est un joueur qui est extrêmement intéressant dans sa faculté à accélérer le jeu et à accompagner les actions balle au pied. C'est pas un box-to-box, mais ça reste un milieu qui est tout terrain.
Barry, je crois qu'il faut que tu te défendes là.
Mais tu es fou, quoi.
Vas-y, Darius, continue. Je sais pas si t'avais
fait. C'est un joueur très intéressant dans ce qu'il apporte. Au niveau défensif, il n'est pas aussi fort, il n'est pas aussi intéressant que Marco Verratti. Mais par contre, il sait porter la balle. Et lui, c'est le seul dans l'effectif qui sait écarter sur les ailes. Et notamment le dernier match, il a permis d'écarter sur les ailes, ce qui a amené des situations. Parce que ça, c'est insupportable. Notre proportion à tout le temps aller chercher l'axe, même quand c'est sûr que ça ne va pas passer, c'est fatigant au bout d'un moment.
Sa relation avec Nuno Mendes, je kiffe. Mais moi, de toute façon, je vous avais dit, hein, Vitinha, ce que j'adorais chez lui à Porto, c'est que dès qu'il reçoit le ballon, il se place à une vitesse face au jeu et j'adore. Tu vois, j'adore les joueurs comme ça. Tu sais, les joueurs qui lorsqu'ils touchent le ballon, c'est toujours pour apporter un plus offensivement et non pas pour toucher le ballon.
Et il accompagne.
Voilà. C'est ça que j'aime bien, tu vois. Et puis même, sa capacité de passe, je pense que Verratti… commence irrémédiablement à aller vers la fin, même s'il est toujours performant, hein, Verratti. Hein. Mais je pense que d'ici 2-3 saisons, Verratti, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Et tu as amorcé ton futur avec Vitinha d'une très très bonne manière. J'ai adoré sa prépa.
Mais vous pensez qu'on va vraiment pouvoir les aligner à deux dans les grands matchs ou c'est vraiment deux profils qui posent question ensemble?
Bah pour moi, non, il se marche pas du tout sur les pieds. À la limite, celui qui pose plus question, c'est Marco Verratti. Mais non, parce que t'as un Vitinha qui n'hésite pas à accompagner les actions et un Marco Verratti qui a tendance à rester derrière le ballon. Vitinha n'hésite pas à se proposer, même devant le ballon. Vitinha écarte ce que Marco Verratti ne fait pas. Après, Marco Verratti, les deux t'offrent une sécurité au niveau de la protection de balle. Après, en soi, oui, ton milieu est trop léger. Hein. En soi, ton milieu est trop léger. Vitinha, normalement, devrait être le mec qui vient pousser le titulaire. Mais tu as tellement de trous partout. La grande problématique de ce milieu-là, c'est si Marco se blesse ou si Vitinha se blesse. Et on sait que Marco se blesse souvent. À ce moment-là, on fait quoi? Et là, il y a un vrai problème. Parce que Vitinha, tu peux imaginer Renato Sanchez un peu le suppléer. Marco Verratti, il n'y a personne pour suppléer.
Je suis d'accord avec l'analyse de Drias. Verratti est très très fort, mais il a un profil très axial dans sa manière de jouer, dans sa manière de faire des passes. Et c'est vrai que c'est très intéressant, tu vois. Moi, j'aime pas dire que tes cracks de ton équipe sont des problèmes. Mais à un moment, il y a certaines choses qui je suis d'accord sur le cas Marco Verratti, c'est qu'aujourd'hui au Paris Saint-Germain, on passe trop dans l'axe et on est trop attendu dans l'axe. Et donc on devrait plus utiliser nos ailes. La preuve, Vitinha lance Nuno Mendes reçoit le ballon dans les pieds, pétard, but. Tu vois ? C'est-à-dire que si tu vises tes ailes, tu as un football qui se passe dans les ailes. On parlait d'Hakimi tout à l'heure. Je pense qu'avec un Vitinha, Hakimi sera il va surperformer, tu vois. Il va être très très bon. Donc je pense que Vitinha est une très très bonne recrue. Par contre, moi j'ai plus de réserves sur ce double pivot là. Je sais pas pourquoi, mais je pense pas qu'avec les deux on puisse jouer avec un 10. Je pense qu'avec les deux, je ne pense pas. Je trouve que c'est trop léger au milieu de terrain. Les deux c'est trop léger. C'est mon avis. Hein, après, je peux me tromper, mais moi je pense que si tu veux jouer avec ces deux là en même temps, il faudrait que tu ajoutes une troisième personne qui a un coffre, qui a un physique imposant et qui a du ballon. Pour moi, les deux, ils vont avoir du mal à jouer avec un 10, surtout que le 10, de ce que j'ai entendu, c'est Lionel Messi et que Lionel Messi ne fait pas les replis défensifs. Donc, moi, il a le problème.
Mais pour le coup, Marco Verratti, c'est un très bon défenseur sur l'homme. Le souci de Marco Verratti, c'est que ce n'est pas un défenseur en zone. Mais normalement, en fait, ta problématique de défense en zone est censée être couverte par le fait que tu défends à 3. Mais après, on a des problèmes d'organisation derrière, ce qui pose problème. Mais tu vois, rajouter un mec ultra physique au milieu, bah déjà, c'est enlever un 10. C'est, à ce moment-là, enfin, t'es plus, bah, si, tu passes en 3-5-2, quoi. Mais t'enlèves ton 10 et tu te retrouves avec un mec qui est juste là, enfin, je sais pas à qui tu penses, mais c'est toi, enfin, juste là à courir pour essayer de trouver des trucs, mais qui est pas forcément en train d'amener une vraie valeur ajoutée avec ballon. Non, je vois pas l'intérêt. Et je pense que défensivement, normalement, tu couvres ça, tu couvres les problématiques notamment de taille et les problématiques d'occupation de l'espace. La charnière.
Voilà, bah, du coup, en fonction de ce que vous avez dit, pour enchaîner et changer un peu de sujet, quel milieu serait l'idéal pour le PSG, du coup?
Avec les
Barry, vu que Barry il allait rebondir sur ce qu'il allait dire, vas-y.
Bah, moi, j'ai tiré sur lui dernièrement sur cette chaîne, mais pour moi, le profil auquel je pense, ça serait un profil à N'Golo Kanté. Un profil qui a du ballon et qui a un gros volume de jeu. En fait, quand je te dis un joueur physique, c'est pas un joueur physique, il est juste balèze pour être là. C'est pas ça que je te demande, tu vois. C'est pas un Gattuso que je demande. Je demande juste un joueur qui a un gros volume de jeu et qui pourra compenser les bêtises, enfin, je vais pas dire des bêtises, mais le manque de repli défensif de Messi, le manque de repli défensif à certains moments de Kylian Mbappé et le manque de repli défensif à certains moments de Neymar. Neymar fait les replis défensifs. Il les fait plus que les autres. Tu vois? Plus que les deux autres. Mais tu te retrouveras encore. En fait, pour moi, le vrai problème, c'est qu'à chaque fois, tu vas te retrouver à 7 plus 3. Donc, je veux bien que Verratti, etc., sont très très bons. Mais il y aura un problème. Et juste pour revenir à ce que tu disais, Drias, la manière dont moi, j'implanterais mon jeu, ça serait. Quand je te dis que j'aimerais pas jouer qu'un 10, ça serait un Vitinha qui serait un 8,5. Comment ça s'appelle? Un Verratti qui serait un 8. Et un 6 derrière qui aurait du physique, qui irait, bah voilà, qui se placerait entre les lignes, patati patata, ligne de passe. Et donc, le Vitinha, lui, servirait à faire la passerelle entre l'attaque et le milieu de terrain. C'est comme ça que je le pensais, moi.
Bah, déjà, on peut constater un truc, c'est que Paris veut renommer le Paris Saint-Germain en Paris Kinshasa.
D'ailleurs, juste petite parenthèse, il y a ton pote dans les commentaires, il t'a demandé où est-ce que tu as acheté ton maillot.
Franchement, je te dis la vérité, on me l'a offert, donc je pourrais pas te dire.
Ensuite,
Bref, je vais c'était une enchaîner au mauvaise, ré mauvaise réponse. Je vais enchaîner sur une autre question.
Attends, je peux pas répondre.
Attends, laisse-moi répondre.
Ouais.
Sur quoi?
Bah, sur la question que tu as posée du milieu
idéal. Ah, t'as pas encore parlé. Vas-y, vas-y, j'ai l'impression que vous parlez depuis tout à l'heure.
Et ensuite, je vais réagir sur N'Golo Kanté. Il a déjà fait son année de trop. On va pas lui en donner une deuxième à Paris. Enfin, on a un peu trop l'habitude justement de faire ce genre de truc. Et après, non, le milieu que tu proposes, Barry, pour moi, enfin, t'as du mal à amener le ballon devant. T'as trois joueurs qui sont derrière. T'as déjà trois joueurs qui sont derrière. T'en rajoutes trois, ça fait six joueurs qui ont tendance à jouer derrière ballon, avec le seul Vitinha qui est ton 8, mais que tu vas utiliser grosso modo en 10, qui est quand même un milieu. Pour moi, c'est trop défensif ce milieu. C'est beaucoup trop défensif.
Ouais, mais sauf que...
le milieu idéal là, bah c'est par exemple, oui, on parle beaucoup, enfin non, les supporters parlent beaucoup parce qu'il n'y a pas de rumeur sur lui, mais ça serait par exemple, tu te lancerais sur un Matheus Nunes associé à Mathieu Nsoussas ou à Marco Llorente associé à Vitinha, et avec un Marco Verratti et un Renato Sanchez sur le banc.
Juste, j'ai pas dit N'Golo Kanté, j'ai dit un profil à la N'Golo
J'ai
Kanté
compris, je te taquine.
Qui a ce volume de jeu là justement,
et qui est et qui est congolais et qui est congolais.
Les gars, j'ai une question pour vous, parce que là on passe dans le système défense à 3. Il y a un coach qui est connu pour vraiment maîtriser ce système et qui a roulé sur la Serie A il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Antonio Conte. Mais dans ce système, Antonio Conte, il a toujours eu quelqu'un qui est grand dans la surface, entre guillemets, pour avoir un jeu de tête. Cette année, nous, on a qui? Qui est-ce qui va remplir ce profil-là dans le système qu'on a actuellement, s'il vous plaît?
Je viens de me rappeler.
C'était qui dans l'Inter de Conte?
Lukaku, non?
Lukaku?
Ah, tu veux dire, ah, l'attaque. Ah, ouais, on passe à l'attaque directement. Je croyais que tu me parlais de l'autre surface.
Non. Par rapport au centre et tout.
Ah oui, bah ça on n'a pas, oui. Ça on n'a pas. Alors qu'on a des pistons et que.
Oui, mais du coup, la question que je vous pose, c'est, tout à l'heure, je l'ai vu dans les commentaires, si on n'a pas ça, est-ce que le système, il a une chance? Du système à défense à 3?
Bah, il a déjà pas de chance parce que ça marche pas derrière. Et puis effectivement, tu as tous ces bugs-là devant. Mais oui,
Là,
oui,
c'est
non,
grave.
ça prend l'autre partout. Hein.
Je voulais en parler en plus d'ailleurs parce qu'une personne dans les commentaires a dit que Mukiele ne savait pas centrer et que devant on n'avait pas de joueur de tête. Donc ouais, ça c'est un gros problème. Bon, il y avait la petite Scamacca qui pourrait être intéressant. Je pense que Campos va s'activer pour trouver un joueur de ce style-là, je pense. Après, tu as toujours les montées de Ramos et Marquinhos de temps en temps, etc. Bon, Marquinhos sera libéraux, donc je pense qu'il va beaucoup moins monter. Mais tu as toujours les montées de ces joueurs-là. Mais je suis d'accord avec vous, il manque un joueur de tête. Mbappé ne sait pas le faire. Neymar a bon jeu de tête, mais il est petit. Et Messi, il est petit aussi, donc c'est assez compliqué. Ouais. Ça serait intéressant d'aller chercher un joueur de tête, ouais. Icardi, arrêtez de me parler d'Icardi, s'il vous plaît. Arrêtez de me parler de lui, là. Que devient Icardi? Icardi n'a plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Que devient-il? On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir ce qu'il devient.
Non, mais si on n'a pas autre chose, j'ai envie de te dire, il faut essayer de le remettre sur les rails. Hein, parce que si on n'a pas d'argent pour en acheter un autre...
Non.
À ce moment-là, il faut repasser à 4 derrière. Je suis désolé si tu n'as pas un mec pour réceptionner les centres. Il faut arrêter le système de défense à 3, c'est tout.
Mais Nix, tu as capté que ce n'est vraiment pas le seul problème qu'on a à l'heure actuelle pour la défense.
Oui, tu m'as dit la défense aussi. On a déjà parlé de la défense pendant 20 minutes. Là, on a évoqué un peu l'attaque. Quel problème que le milieu il pose selon toi? On va passer au milieu. Quel problème que le milieu est là pour toi pour qu'on ne puisse pas jouer à 3?
Bah, parce que si tu... Vas-y, pareil.
Non, vas-y.
Le truc, c'est que pour moi, si tu joues dans un milieu à 3 et que tu as 3 centraux, tu finis avec quelque chose qui a tendance à être trop défensif. Tu as besoin d'avoir, un mec qui... Tu as besoin d'avoir un 8 et un 8-10, en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est... Ça sera trop défensif, tout simplement.
Ah, juste avant que tu répondes, Barry... nous sommes 286 dans le live, donc s'il n'y a pas la moitié, c'est-à-dire s'il n'y a pas 143 likes sur la vidéo,
moi j'arrête pas ce live. Moi j'arrête pas ce live. Dans tous les cas, si j'ai pas les 143 likes, les 290, c'est-à-dire on a encore augmenté. Si j'ai pas la moitié de likes, c'est-à-dire 140 likes, je viens chez vous, les gars. 145, pardon. 145, je viens chez vous. Donc, s'il vous plaît, les gars. Non, en vrai, blague à part, s'il vous plaît, likez, ça nous fait plaisir. Et ça nous aide au référencement, ça nous permet de développer la chaîne. Ça vous prend 10 secondes et du coup, ça nous aide à se développer.
Et surtout, c'est gratuit, les gars. Et ça prend même pas 10 secondes, ça prend 2 secondes. Arrête d'abuser. Vas-y.
Bah ouais,
fort. Bah oui, le mix est génère.
Non, mais pour moi, il y a un problème à l'attaque. Je suis désolé, il faut en parler. Parce que tout à l'heure, apparemment, on ne tire pas sur lui. Là, il y a un problème, c'est qu'on a R9, Milan AC. Attends. Les gars, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci, Neymar. C'est pas possible, les gars. Il est trop lourd. Mais c'est pas possible. Les gars, mais je suis choqué. Non, mais vous avez vu l'action, il se fait rattraper par les deux Japonais. Mais j'ai pété les plombs devant ma télé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors oui, attention, je ne vais pas tirer sur Neymar, etc. Patati patata, c'est un joueur que j'aime énormément, c'est le football qu'on aime voir. Mais comme j'ai dit, cette mentalité des intouchables, il faut la cesser. Le match dernier, j'entends, oui, Neymar, il a mis un but, une passe décisive et un pénalty. Vous foutez de moi ou quoi? Non, faut arrêter. Moi, pour moi, les trois ensemble, ça ne marchera pas. Donc Neymar, ça marchera à partir du moment... où le Paris Saint-Germain se décidera à dire soit Messi va sur le banc ou soit Neymar va sur le banc. Mais les trois ensemble, ça ne marchera pas. Je vais prendre l'exemple du deuxième match. Après, je vais couper la parole. L'exemple du deuxième match. Tu as Messi qui est 10 sur le terrain et tu as Neymar qui est censé être en numéro 9. Au début, Neymar décroche. Il se retrouve à la position de Messi, là où il ne devrait pas se placer. Donc l'axe est vide. Ils ont une discussion après 5-10 minutes de jeu au milieu de terrain. On les voit parler, etc. Neymar décide de se cantonner à la position numéro 9. Et là, Neymar, j'adore. Il fait des appels de balles pour déstabiliser la défense. Il fait son jeu de numéro 9 qu'on lui demande. C'est très, très bien. Le match d'après, on remet encore les deux et Neymar refait encore leur truc. Je pense que instinctivement, les mecs ont envie de toucher le ballon. Et ça fait trop de joueurs de ballon. Mais je vais me répéter encore une dernière fois. Une séquence de jeu que je sais qu'on va voir. Et Dria, je sais que tu es d'accord avec moi sur cette séquence de jeu-là. Donnarumma le ballon, le passe à Marquinhos. Marquinhos passe le ballon à Verratti. Verratti fait 1, 2, 3, 4 touches. Il passe le ballon à Messi. Messi fait 1, 2, 3, 4 touches. Messi la passe à Neymar. 1, 2, 3, 4 touches. Neymar la repasse à Messi, 1, 2, 3, 4 touches, Messi la passe à Mbappé, 1, 2, c'est bon les gars, laissez-nous vivre, on veut du football, le football rapide, c'est bon les gars, les semelles là, c'est bon, c'est très beau les semelles, mais ça suffit.
Je peux me permettre de corriger ta séquence?
Ouais.
C'est 1, 2, 3, Messi la touche, 1, 2, 3, la passe à Neymar, 1, 2, et la paire. Ou tu fais l'inverse. Voilà.
Et en sachant que j'ai même pas, en sachant que j'ai même pas parlé de quand les autres ils vont toucher, bah ils vont dézoner, il y aura plus personne en cas de contre-attaque, bah tu vois derrière tu as Verratti qui lui dézone aussi. Après Verratti il est très très bon défensivement, c'est un missile à la tête chercheuse. Mais dans ces moments-là, quand tu te manges une contre-attaque parce que tes joueurs ont fait les bêtises de vouloir à tout prix dribbler, bah derrière si lui l'a dézoné, t'es mort. Paredes, on ne sait pas s'il va partir, mais lui aussi Paredes des fois il dézone. Vitinha, Vitinha quand même un joueur assez tactique. Mais il a cette capacité aussi à des fois se retrouver à des positions qui vont faire que derrière, tu te manges un boulevard. Les gars, en fait, ce qui est très, très bien, c'est que dans cette position-là, si tu as un joueur qui dézone, c'est très intéressant. Mais si tu as quatre joueurs qui dézone, au final, tu n'as plus de tactique et ça devient un football de non-sens.
Moi, sur Neymar, je vais juste dire un truc. C'est sur le dernier match, il a fait 35 très bonnes premières minutes. Par contre, Barry, j'ai vérifié hein, sur les heatmaps des deux joueurs, Neymar est plus bas que Messi. Légèrement, ouais, légèrement. C'est, ça joue à trois fois rien, mais sur l'ensemble des matchs, Neymar est un peu plus bas que Messi. Et il a fait et puis après, il est retombé dans ses travers du j'essaye de passer. Bon, tu sais, le mec, t'as l'impression, il voit une porte qui est fermée, il sait qu'elle est à clé, ben, il essaie quand même de marcher comme s'il n'y avait pas de porte et il va essayer.
Excuse-moi de te couper. Il y a une séquence où je sais que tu l'as vu. Il est face à trois défenseurs. Trois défenseurs, c'est-à-dire le latéral, un milieu et le joueur de la charnière centrale, il tente quand même un passement de jambe. Ben, c'est bon, ça suffit.
Mais il
est sur le côté.
Le problème, c'est que Messi commence à faire un peu la même chose. Quoi. Et ça, c'est Messi aussi devient très, très agaçant. Déjà, les choix uniquement axiaux et les trucs où tu sais que ça ne va pas passer, je vais dans le mur. Il y a Nyx qui ne joue pas le jeu. Il est en train de lire tous les commentaires. Il se part tout seul dans son coin depuis tout à l'heure.
Mais ils sont grave drôles les gens. En fait, les gens ils sont grave drôles.
Le truc c'est qu'ils sont tellement forts, balle au pied, tellement incroyables balle au pied, qu'ils veulent à tout prix combiner ensemble. Je peux comprendre, tu vois, et qu'ils ont la même sensibilité foot. Mais à un moment, faut aussi comprendre que tu es dans une équipe. Moi, je suis sûr, je suis sûr et certain que si Neymar décide de simplifier son jeu et de laisser la création à Messi, le Paris Saint-Germain est imbattable avec les trois devant. Pour moi, c'est la seule manière.
Pas d'accord avec toi dans le sens où Messi commence à être agaçant de la même manière. Et le truc, ouais, c'est. Ben, mais ce que tu dis est très vrai. C'est juste qu'avant, ça passait parce qu'ils avaient. Ils étaient juste un peu plus rapides et que maintenant, ils sont devenus lents. Et Neymar, moi, m'a donné l'illusion qu'il était capable de se réinventer. Mais cette illusion, elle a duré une demi-heure. Voilà.
Et juste, par contre, quand tu disais que sur les heatmaps, Neymar était beaucoup plus bas.
Pas beaucoup.
Légèrement. Là, par contre, je vais y trouver une circonstance atténuante parce que Messi ne fait pas les replis. Neymar, lui, il fait les replis.
Ah, c'est pas. Ouais, peu importe.
Mais c'est vrai qu'offensivement, des fois, je le trouvais trop bas. Et là, je te suis.
Alors, les gars, là, donc, concrètement, le système de Galtier, vous me dites la défense, ça va pas. Vous me dites le milieu, ça va pas. Vous me dites l'attaque, ça va pas. Et l'attaque, on a juste mentionné. Les histoires de tête, on n'a même pas mentionné les neufs qui décrochent tout le temps, il n'y a pas de neuf dans la surface, on n'a même pas parlé de ça. Donc ma question est la suivante, est-ce que Galtier risque pas de voir qu'il y a des failles et repasser à 4? Qu'est-ce que vous en pensez?
Sur le milieu, moi j'ai pas dit que du mal. Trucs en fait, si tu veux, la problématique de ça, c'est qu'on a axé toute notre communication sur le fait qu'on allait passer à 5. Ensuite de ça, donc pour repasser à 4, ok, mais tu repasses à 4 comment? C'est-à-dire avec quel latéral? Bon, t'as récupéré deux des pistons qui sont parmi les pistons les plus hauts, tu passes à 4, déjà il y a un problème. Ensuite de ça, pour passer à 4, bah tu passes à quoi? Avec un milieu à 2, avec un milieu à 3, parce que si tu passes avec un milieu à 3, là par contre le défenseur de zone, depuis Mota, on est en chien de défenseur de zone, depuis Mota on essaye de jouer à 4 derrière, et c'est la catastrophe. Ensuite de ça, bah, c'est tout bête, mais t'avais dit Maria qui était pas forcément très cohérent, mais par contre côté ailier, puisque Sarabia peut plus vraiment jouer ailier, côté ailier avec Neymar qui est trop lent, t'as juste zéro ailier. Donc tu veux jouer à 4, mais comment Nyx en fait? Si il m'écoute pas, il est en train de lire les commentaires.
J'ai compris ce que tu as dit. Tu m'as dit comment tu veux qu'on joue à 4.
T'as pas les lettres. Dans un 4-4-2.
Ça fait des saisons que je le dis, même avant la saison d'avant. Il faut qu'on joue pas en 4-4-2 losange, où les deux personnes sur le côté, ils compensent les montées d'Hakimi et de Mendes. C'est ce que je disais l'année dernière.
C'est qui tes deux personnes sur le côté, Nyx?
Bah, c'était nul. Quoi, tu me parles du milieu ou de la défense?
Ben, tu me dis, il y a deux personnes sur les côtés qui compensent les montées de Hakimi et de Mendes. C'est qui tes deux personnes sur les côtés?
Dans le losange, les deux milieux, les deux buts.
C'est qui?
Bah, déjà, Verratti.
Pour moi, je dirais Renato Sanchez dans ce cas-là.
Renato Sanchez, qui est peut-être défensivement un des milieux les pires d'Europe. On est sérieux? D'un point de vue statistique, Barry,
tu peux refuser.
Écoute l'argument. D'un point de vue statistique, Renato Sanchez, si tu prends tous les métriques, c'est-à-dire duel aérien perdu, duel au sol perdu, pressing, etc., tu les combines tous, il est dans le top 5% des défenseurs, des milieux, le bottom 5% des milieux d'Europe. Je pourrais t'envoyer les stats si tu veux.
Dans le 4-4-2 losange, tu as deux manières de jouer avec un 4-4-2 losange. Soit c'est ton 6 qui va être une régista et qui, lui, va balancer les ballons devant. Soit c'est ton 10 qui va faire le jeu offensivement. Là où je te dirais que Renato serait intéressant dans ce système de jeu-là, c'est que Renato, les deux 8, on leur demande pas d'être les meilleurs défensivement. On leur demande juste de compenser les montées des latéraux, c'est-à-dire de se placer dans les lignes, à se décaler pour se placer entre les lignes. Et quand ils ont le ballon, d'avoir une qualité technique qui vont faire qu'ils pourront donner le ballon à leur 10. Donc, pour moi, Renato, il sera intéressant dans ce jeu-là. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Défensivement, Renato, c'est pas la joie. Mais dans ce système-là, Renato Sanchez, on ne lui demanderait pas d'être un récupérateur de fou, etc. Moi, je me rappelle de l'époque du... Non, je suis pas charmant.
Juste deux secondes. Quand un de tes milieux qui doit compenser une des montées d'un des latérales, ça veut dire qu'à la perte du ballon, il doit être capable, un, de faire la course, et deux, de faire l'intervention sur la personne qui passe. Donc, il faut quand même qu'il ait des qualités défensives. Il suffit pas juste qu'il se pointe sur la ligne, où là, à la limite, il peut presque plus participer au jeu. Non, il faut qu'il soit relativement centré, vigilant à ce qui se passe si jamais ça part de ce côté-là, et être capable d'y aller et d'intervenir proprement sans pour autant déséquilibrer l'équipe complètement pour machin. C'est pas un mec qui sait pas défendre, hein, ce milieu-là. Donc c'est pas ton Renato Sanchez. Tu parlais de Marco Verratti, oui, ok Nix, mais ton Marco Verratti, bah, tu vas le placer haut. Donc Marco Verratti, ça va être ton milieu, c'est un milieu qui est relativement haut. Bah, moi là aussi j'ai des problèmes. Et tu mets qui de l'autre côté?
Puisque c'est un 8 qui est sur le côté, il joue quasiment médian, il est au rang central. C'est-à-dire un peu à gauche, mais devant lui il y a un 10 et il y a deux attaquants, donc il va pas être si offensif que ça. Il va y avoir peut-être deux 8, il y en a un qui va plus monter. C'est un peu comme si déjà maintenant il y a peut-être l'autre 8 de l'autre côté, okay. Vitinha qui va plus monter et lui il va plus rester derrière. Okay, avec le 6. Alors, okay,
je prends Verratti, et c'est qui ton 6 et ton autre 8?
Ouais, là avec ce qu'on a c'est compliqué. Là, il reste Paredes ou Danilo Ortiz.
Au problème du 4-3-3 où il te manque
Paredes.
Oui, Paredes, t'es bien, c'est ton seul 6, t'as tes ailiers qui sont là pour compenser tes pistons, c'est ton seul 6, donc le seul qui a la responsabilité défensive de l'axe, et tu mets Paredes. Oh putain, tu vas vachement bien.
Déjà, de 1, moi j'avais même pas eu le temps de répondre à la question. Je te dis juste que sur le 4-4 de losange, si tu mets un Renato Sanchez, un Paredes, un Verratti, et devant tu mets ton 10, pour moi ça pourrait être intéressant. Après, sur un 4-4-2 losange, je suis pas forcément pour. La question initiale c'était est-ce que le 3-5-2 a des chances de se casser la gueule. Pour moi, je pense que défensivement il y a un travail à faire. Pour moi, je suis pas alarmant sur ça. Alors oui, je préférerais avoir Skriniar parce que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir Skriniar dans cette défense là. Mais par contre, je pense que les trois ont juste besoin de se calquer, de plus jouer ensemble ce système-là, de le travailler beaucoup plus, et je pense que ça va devenir beaucoup plus intéressant. Sur le milieu de terrain, attention, moi j'ai jamais dit que j'avais des réserves sur ce milieu de terrain-là. Je pense que c'est très intéressant, mais par contre je pense qu'avoir un autre joueur qui lui aura un volume de jeu beaucoup plus intéressant, peut-être en entrée de banc, peut-être en sortie, etc., pour avoir plus de polyvalence dans ce milieu-là, ça pourrait être intéressant pour pouvoir mettre plusieurs systèmes en jeu. Ça pourrait être intéressant. Par contre, moi, le vrai truc qui m'alarme, c'est l'attaque. Moi, c'est l'attaque qui m'alarme. C'est que, je le répète encore, mais les trois devant, je pense pas que ça va fonctionner.
Je vais juste rebondir et je sais que je geek un peu trop sur la défense et que j'en parle un peu trop. Une défense à 3, Barry, quand tu essaies de les mettre en place en club, en général, avec des joueurs qui savent jouer dans ce système-là, tu mets 6 mois à le mettre en place, voire 1 an avant que ce soit fonctionnel. Et là, on parle de le mettre en place avec des joueurs qui ne savent pas jouer dans ce système-là. Donc non, ce n'est pas un petit problème. Et la manière avec laquelle on joue, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu avais la ligne de 5 et tu avais les 5 autres qui étaient en train de courir, en train de faire un pressing désordonné. Heureusement que les Japonais n'avaient pas un pressing coordonné. Enfin, on aurait...
Ça, à la limite, on peut se dire qu'il y a des nouveaux joueurs, que le système il vient d'être lancé, qu'il y a des automatismes à trouver, que ça va peut-être progresser. Parce que j'ai vu, il y a plein de gens qui nous disent qu'on est défaitistes et tout ça. Et ma question est la suivante aussi également. Si Galtier tente le système à 3 et il dit qu'il se pète la gueule et qu'il repasse à 4, nous qui avons insulté Pochettino toute l'année dernière, ça dit quoi de nous? Parce qu'au final, peut-être que lui, il avait compris ça depuis l'année dernière.
J'ai pas insulté ça. Moi, j'ai même défendu.
Non, mais sur ce système-là en particulier, parce que je me rappelle toute la saison dernière, on a dit Pochettino, pourquoi tu passes pas à 3? Pourquoi tu passes pas à 3? Et peut-être que lui, il avait déjà compris ce qui est en train de se passer là maintenant. C'est ma question.
Ça y est, Nick s'y comprend.
Moi, je suis pas d'accord. Alors là, je suis pas d'accord.
Barry, t'es pas ciblé. Il y avait plein de problèmes avec Pochettino. Je te parle pas de tous les problèmes. Mais sur ce truc-là en particulier, peut-être qu'il avait raison sur ce truc-là. Je te dis, sur tout le reste, il n'y a pas débat. Mais sur ça, qu'on l'a traité toute l'année parce qu'il voulait pas passer à 3 derrière.
Ah, mais moi, je l'ai jamais insulté parce qu'il voulait passer à 3. De base, j'étais même pas pour la défense à 3. Moi, j'ai jamais été pour la défense à 3. J'ai toujours été sur un 4-3-3, moi, de base. J'ai jamais été pour la défense à 3. Moi, ce qui m'a dérangé avec Pochettino sur la fin, c'est que c'était un non-sens. Les changements qui arrivaient à chez Blanc, pas combattième. Le gars, il s'en foutait limite, il était en roue libre. Non, moi, j'étais pas pour la défense à 3. Par contre, maintenant, vu les joueurs que tu recrutes et la direction sportive, oui, le système à 3 serait très intéressant. Et moi, par contre, je pense que le système à 3, avec les 3 derrière qu'on a actuellement, ça pourrait être intéressant. Il faut juste qu'ils jouent plus ensemble et qu'ils apprennent à travailler ensemble. Juste, les gars, on est 333 dans le live. Je veux 150 likes sur cette vidéo, s'il vous plaît. Ça nous fait plaisir, ça nous aide au référencement. Sinon, on n'arrête pas ce live. Allez, les gars, allez liker. Il y a le frérot Macam, c'est pas là, ça va, mon frérot?
Oh, il y a du monde. Verratti en 6, Sanchez, Vitinha, relayeur. Oh. Bah, en fait, c'est ce qu'il dit tout le temps, Draya, si c'est toujours pas, c'est quoi la position de Verratti?
Ça, et puis Marco Verratti, c'est pas défendre en zone, donc tu te retrouves avec quasiment aucun défenseur bas qui est capable de défendre en zone et tu vas prendre l'eau, en fait, avec ce milieu-là.
Ok. Petite minute rumeur, le Stade Rennais s'intéresserait à Arnaud Kalimuendo, de ce que vous avez vu pendant la tournée japonaise.
Ah, je voulais parler de lui.
On devrait essayer de.
Merci.
On devrait essayer de le vendre ou pas? Bah, vas-y, Barry, t'as l'air motivé sur le sujet.
Bah, si tu me parles de ses qualités de football, moi personnellement, je pense que ce petit jeune, il a un truc et que ça serait bête de s'en séparer maintenant, en sachant que. Il a montré de très très belles choses. Après, il faut aussi comprendre la problématique du Paris Saint-Germain, qui est que les indésirables n'arrivent pas à partir, il faut faire enfouler les caisses. Donc là, j'entends parler d'une offre de 40 millions. Forcément, 40 millions sur Kalimuendo, ça te fait réfléchir. Mais ça serait un crève-cœur, parce que ce petit jeune, il a réellement quelque chose dans les jambes. Il a réellement une sensibilité foot qui serait très intéressante. Et même lorsqu'il dézone, tu vois, on parlait des dézones, mais lorsqu'il dézone, bah, c'est toujours pour apporter un plus. Il ne dézone pas pour toucher le ballon. Tu vois, je pense que tu es d'accord avec moi, Drias.
Il est très prometteur, Kalimuendo.
Ouais, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Galtier. Et puis même, la dernière chose, mais les buts qu'on a mis, les buts que Kalimuendo a mis, je pense que ça peut devenir une réelle signature au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire ce jeu en triangle, tu lances ton latéral, le latéral la remet à Kalimuendo, Kalimuendo marque. Ça peut devenir une vraie alternative. Pourquoi une vraie alternative? Parce que tout à l'heure, comme on en parlait, on a ce problème de tête au Paris Saint-Germain. On n'a pas ce joueur de tête qui va être capable de récupérer les centres. Donc forcément, si tu n'as pas de joueur de tête, tu vas devoir passer à rater. Et cette séquence de jeu-là, elle est très très intéressante. Et avec les joueurs que tu as, je pense que le Paris Saint-Germain pourrait l'optimiser au mieux.
Pour moi, tu as presque tout dit. Après, je rajouterais qu'il faut penser aux joueurs. On a clairement, c'est pas le profil du joueur de tête qui jouerait à côté et qui pourrait jouer en déviation pour Mbappé. Ce serait trop limité que de faire ça. Et de toute façon, il n'a pas forcément les qualités naturelles. On a recruté l'étiquette qui sera numéro 2 derrière Mbappé. Ça voudrait dire que Kalimundo serait numéro 3, alors que le mec, dans 2-3 ans, ça se trouve, il sera titulaire dans un très très bon club. Pour lui, il faut le vendre. Ce serait du gâchis de talent que de le laisser sur le banc en troisième rotation. Je trouve que ce serait une très mauvaise idée, moi. C'est un très bon joueur, Kalimundo. On n'est pas prêt à lui laisser sa chance. On vient de recruter. On n'aurait pas recruté Ekitike. Il y aurait eu un discours différent. Mais avec le recrutement d'Ekitike, il faut le laisser partir.
Si tu regardes le plan de jeu de Galtier de les faire jouer à 3, ça serait Ekitike qui serait la doublure de Mbappé et Kalimundo qui serait la doublure de Neymar.
Oui, parce que tu raisonnes, parce que comme s'il y avait Neymar, mais encore une fois, alors je ne sais pas ce qu'il a vu encore, mais encore une fois, devant, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de Neymar, c'est d'une tour de contrôle qui est capable de mettre la tête. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est pas Kalimundo ton remplaçant. Quoi.
Oui, un pivot, il nous faudra un pivot. Mais Kalimundo, je pense que il me rappelle, enfin, j'aime pas comparer les joueurs, mais il me rappelle un peu ce que Keane avait apporté au Paris Saint-Germain. Je trouve que Kalimundo a plus de ballons et plus de QI football que Keane. Après, Kalimundo, je pense que ça sera un crève-cœur de s'en séparer. Mais comme je dis, hein, 40 millions, t'as des problèmes, tes indésirables ne veulent pas partir. Malheureusement, il va falloir penser à le faire partir.
J'ai plus lu 30, moi, sur Kali. Hein. Mais bon.
Ouais, mais.
40.
En fait, c'est la question que j'allais justement vous poser. Est-ce qu'on a toujours le même problème avec le PSG? On a l'impression que nos joueurs, nos titis, on les vend archi mal. Et moi, 40 millions, moi, ça ne me choque pas. Quand tu vois qu'on veut te vendre un Scamacca 50 millions, moi, je ne sais même pas c'est qui ce mec-là. Et Kitike, c'était quasiment 40 millions. Kalimundo qui a fait deux bonnes saisons en Ligue 1, c'est 20 millions, ça, c'est pas cohérent. Nous, dès que ça sort chez nous, ça coûte des 15-20 millions. Et nous, quoi, si demain, on devait acheter Kalimundo, par exemple, il joue en Italie ou il joue en Angleterre, c'est 40 millions sur la table minimum. Et je pense que vous savez tous les deux. Donc, moi, je pense qu'on ne devrait pas chipoter le vendre à 20 millions. C'est 40 ou rien, sinon il reste. Voilà.
Voilà, voilà.
Après, c'est un joueur honnête, Barry. Il faut penser aux joueurs, c'est un joueur honnête. Il n'y a pas dans les coins.
C'est ça. Et merci de m'avoir fait penser à ça, Dryas. Parce que Kalimundo, c'est un mec. Il va, comment dire ça, influer sur toute ta politique des jeunes sur les années à venir. Parce que là, Kalimundo, c'est le mec, tu lui as dit, tu veux jouer au PSG, on va te prêter une année. Après, il est revenu, on l'a reprêté une deuxième année pour qu'il ait du temps de jeu et tout ça et qu'il revienne. Donc là, en fait, le mec, il a joué le jeu, il n'a pas fait comme les autres, là, à 16 ans, moi, je ne veux pas être prêté, moi, c'est soit tu me vends, soit tu me fais jouer tout de suite. Lui, il a joué le jeu, il a fait tout ce que le club lui a demandé. Là, tu es obligé de le traiter avec respect, ça veut dire. Là, tu es obligé de le considérer, de voir si tu le laisses dans l'équipe et lui donner du temps de jeu. Ou sinon, tu vois avec lui s'il veut partir et où est-ce qu'il veut partir. Mais ce jeune-là, il faut le traiter et ça donnera une bonne impression aux jeunes qui sont derrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
Complètement. Il s'est jamais plaint, Kali. Il n'est jamais allé pleurer dans un média ou autre, etc. Il a toujours essayé de trouver des solutions qui étaient à la fois satisfaisantes pour lui et pour le club. Et en effet, c'est important de bien traiter les jeunes. Enfin, tu as tout dit, c'est très important de bien traiter les jeunes, ne serait-ce que pour l'image que tu renvoies et pour la suite que tu prépares. Mais tu as tout dit, en fait, dans ta question.
Ok, ouais, pourquoi
ouais, vas-y. Et puis dernière chose. J'ai pas envie que ça serait dommage que Kalimundo devienne le nouveau Nkunku quand même, tu vois, ce nouveau Titi qui est parti et qui te fait mal au cœur. Mais je répète encore que j'entends parler de 30-40 millions. Personnellement, je vous dis la vérité, à ce prix-là, je le ferais partir, mais un vrai kef-cœur. Malheureusement, on n'arrive pas à se débarrasser des autres. Après là, j'entends que la Juventus s'est débarrassée de Ramsey et que potentiellement Paredes pourrait partir. Parce que oui, je t'ai pas dit, Dria, j'ai changé ma face sur Paredes parce que lui, il est malade. Lui, il est malade, c'est un fou. Il va faire des déclarations. Je vois quoi là? Je vois encore passer dans ma télé la dernière fois. Paredes se pose des questions sur son avenir parce qu'il aimerait jouer plus. Mais qui c'est qui est blessé tous les 4 matins? C'est moi? Est-ce que c'est ma tante qui est blessée tous les 4 matins? Mais c'est un fou ce mec-là. Il aimerait jouer plus. Mais tu joues autant de fois où t'es pas blessé. Mais c'est un malade ce mec-là.
Je sais pas, Nathan.
Mais il est fou.
Pour rebondir, on va clôturer le dossier Kalimundo. Il y a le cas Ekitike qui par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'attaque et la défense à 3 et personne pour réceptionner les centres. Alors on a Ekitike qui est très grand en taille mais qui est pas très bon de la tête. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut travailler assez rapidement? Vous pensez que ça va prendre du temps et qu'on peut pas compter sur ça cette saison?
Pour moi, c'est quelque chose qui prend du temps, le timing de la tête. Enfin, ça se travaille, hein, mais de toute façon, c'est un truc, c'est t'as certaines qualités, tu les as. Et si tu les as, bah, tu les as. Si tu les as pas, tu peux les travailler, mais tu seras jamais un expert et tu seras jamais un cadre dans le sujet. Après, j'ai vu une question, pourquoi est-ce qu'on a pris Ekitike? Parce qu'Ekitike, il y avait beaucoup de hype autour de lui, mais la hype est au moins partiellement justifiée. C'est un gros talent, il est très jeune. Et donc, en effet, tu peux te dire, bah, il fallait foncer dessus. Maintenant, c'est un débat, hein, Ekitike ou Kalimuendo. Moi, j'aurais tranché différemment, mais le club a choisi de trancher de cette manière-là et ça se tient. Par contre, pour la tête, peut-être qu'il pourra bosser, peut-être qu'il pourra avoir un niveau intéressant dans un an, mais ça sera jamais un cadre de la tête, comme Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a fait d'énormes progrès de la tête, mais ça, c'est pas un cadre et ça en sera jamais un.
Je viens de voir. Oui, mais pas dans l'immédiat. Pourquoi pas dans l'immédiat? Parce que pour la simple et bonne raison que pour le moment, il est un peu trop frêle, il n'a pas encore fini sa croissance, il n'a pas encore pris en masse musculaire. Et donc l'un des problèmes d'Ekitike, c'est qu'il se fait facilement bouger par les défenses. Et donc pour éviter de se faire bouger par les défenses, c'est deux par ce jeu-là qui justement, enfin, après ça fait partie de son jeu aussi, mais il dézone par rapport à ça. Parce qu'il n'arrive pas à apporter un poids défensivement. Par contre, non, je pense que dans quelques années, il pourrait l'être, vu qu'il est grand de la taille, mais faudrait il prend quand même un peu plus en masse. Et puis, dernière chose, pourquoi Scamacca est intéressant? Moi, j'aime bien Scamacca sur son jeu en extension, c'est-à-dire sa capacité à récupérer le ballon en extension. Et ça, c'est quelque chose que tu as d'inné. Et là, je rejoins Drias. Ça, c'est quelque chose que tu as dîné. Tu as Haaland qui n'est pas très bon de la tête, mais qui est très très bon en extension pour récupérer le ballon de la poitrine, etc. Tu vois? Tu avais Zlatan, etc. Mais ça, c'est quelque chose que, comme j'ai dit, c'est inné. Ce n'est pas quelque chose qui va se travailler parce que c'est très dur de le travailler.
Il
Ça
faudrait
demande, ça, en fait, ça demande une
mais
maîtrise de tes muscles qui, clairement, bah, Zlatan, on le savait, c'est par rapport au taekwondo. Haaland, je ne sais pas c'est pourquoi, mais tu vois? Mais c'est des choses que tu travailles depuis que tu es jeune. Donc, en un an, j'aurais du mal à croire qu'il pourrait l'être. Après, d'ici quelques années, oui, il pourrait potentiellement être bon de la tête, mais est-ce qu'il pourra devenir le joueur de tête que le Paris Saint-Germain attend? J'en doute.
Après, pour la tête, c'est vachement lié au rythme. Tu sais, c'est une notion de timing. Et tu peux progresser dessus, mais tu vois, par exemple, un mec qui sait pas du tout danser, il pourra danser à peu près, mais ça ne deviendra jamais un grand danseur, quoi. Et c'est pareil pour la tête.
Ah, ça, salut l'immigré parisien qui est parmi nous. Ça fait plaisir de t'avoir dans le live. Passe quand tu veux, frérot. Passe quand tu veux. L'invitation, elle est ouverte.
C'est la bienvenue. Rappelle bienvenue, pardon.
Qu'est-ce que j'allais dire? Tout à l'heure, Dreas, il a dit quelque chose d'intéressant et je sais pas si on pourra trouver des joueurs dans l'effectif pour essayer de réaliser ça. Tu disais que, par exemple, le Manchester City de Guardiola a joué longtemps sans neuf et que même s'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, les histoires de centre et tout ça, en fait, il n'y a pas ça à Manchester City. C'est que des demi-espaces, des débordements,
Ah, et
passes en retrait. Est-ce que
Guardiola.
cette année, il ne faudrait pas peut-être essayer de pomper un petit peu ce que fait Guardiola? Au niveau offensif, je parle.
Oula, tu t'emballes. Tu
Au
t'emballes.
niveau
Merci,
offensif.
merci,
Au
Brian.
niveau
Non,
offensif, j'ai
c'est
dit.
okay, au niveau
impossible.
offensif.
En fait, vous voyez qu'en latéral, il a plusieurs options quand il arrive. Il peut soit centrer, soit il peut déborder, faire des passes en retrait. En fait, c'est ce que j'essaie de vous dire. Je ne dis pas qu'on va jouer comme Guardiola.
Ben, ramène-nous Bernardo Silva ou Kevin De Bruyne et je te dis, ouais, on peut essayer, ouais.
Non, même pas, mais c'est simple. Mais c'est simple. Guardiola, il a une manière de tenir ses joueurs qui est incroyable. Tu vois, ces mecs-là, ils font pas 40 000 touches. Hein. Il y en a qu'un qui est à la rigueur dynamitaire et qui fait un peu des trucs, c'est Mahrez. Mais Mahrez, il fait ça pour apporter un plus offensivement. Au Paris Saint-Germain, c'est pas ça le problème, c'est que les mecs ne veulent pas jouer en une touche. Il est là le problème. C'est que je veux bien qu'on mette le jeu de Guardiola en place. Mais déjà, le 1, on n'a pas les joueurs pour. Déjà, à la base des bases, ça, c'est le premier vrai problème. On n'a pas la profondeur de banc de Guardiola. Et puis, la deuxième chose, le joueur aime trop toucher le ballon. Et troisième chose, mais à chaque fois que Guardiola est tombé, c'est par rapport au fait qu'il n'est pas de neuf. Alors, c'est bien beau, ça va passer à chaque fois, etc. Mais dans les matchs où tu as besoin d'un neuf, bah, tu n'en as pas sur le banc. Tu perds. Contre le
Après,
Real, il a. Contre, non, contre le Real, il a un 9, il perd pas. Contre le Real, il a Haaland, il perd pas. Contre Chelsea, en finale de Ligue des Champions, il a un 9, il perd pas. Je pense que la première mi-temps qu'on fait contre l'année où ils arrivent en finale, la première mi-temps qu'on leur fait, si on aurait continué à la faire, je pense qu'on serait passé. Mais la première mi-temps qu'on fait contre eux, ils ont un 9, on ne l'a fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Le 9, c'est très très beau contre des équipes où tu vas maîtriser le ballon, etc. Contre Manchester United, l'équipe qu'ils avaient l'année dernière, ça va être très très bien de jouer sans neuf parce que tu vas fluidifier ton jeu, tu vas apporter un plus sur ton milieu de terrain parce que tu vas avoir un milieu en plus. Mais tôt ou tard, ton neuf, tu en auras besoin. Et si tu n'en as pas, bah, tu le sentiras à un moment.
Ouais, mais après, tu sais, il y a pas mal de matchs qu'il perd aussi à cause de choix trop défensifs qu'il fait. Et genre, comme s'il refroidissait un petit peu dans son côté football total, etc., etc. Maintenant, je te rejoins. Avoir un neuf, à la fois, tu te facilites certains trucs, mais en même temps, t'enlèves un de tes créateurs du terrain, et etc. Enfin, il y a des avantages et des désavantages. Maintenant, pour revenir à ce que disait Nyx, un des trucs qui est caractéristique de Guardiola, c'est les récupérations aux 40 mètres et les projections ultra rapides par des transversales, notamment De Bruyne, par des courses de Bernardo Silva qui va tout de suite passer. Ça va extrêmement vite. Et on n'a pas, à part Kylian Mbappé, on n'a pas ces joueurs-là au milieu, en fait. T'as pas la capacité de jouer comme ça. Après, tu pourrais essayer de te rapprocher de quelque chose comme ça. Si tu avais, enfin, il y a un truc qu'il faut vraiment travailler, c'est notre capacité à écarter sur les ailes. Parce que je pense que Hakimi, tu peux lui donner l'instruction de centrer au sol. Mais il faut d'abord pouvoir créer le temps d'avance pour Hakimi. Et vu qu'on transmet sur les ailes à chaque fois avec 25 ans de retard, ben nos latéraux, ils n'ont jamais un temps d'avance. Et quand on écarte, hein, parce que c'est pas dit qu'on écarte à chaque match, quoi. Donc c'est compliqué à mettre en place, Nyx.
Non, mais en fait, c'est des trucs à travailler. Je voulais juste vous dire, par exemple, vous voyez, il y a un truc qui m'énerve quand je vois le PSG jouer, c'est Messi quand il arrive et qu'il arrive aux abords de la surface. Vous voyez ce truc qu'il faisait à chaque fois et qui nous rendait ouf quand on jouait contre le Barça et qui décalait sur Jordi Alba. Et qu'à chaque fois, Jordi Alba, il prenait le ballon, il remettait sur lui et des centres dangereux, remise en retrait et il frappait. Pourquoi il oublie Hakimi? Pourquoi il oublie Nuno Mendes? C'est un truc qu'il a fait toute sa carrière. Moi, ça me rend ouf de faire ça. C'est pas un mec qui sait pas le faire. C'était son schéma type. C'est ce qu'il faisait quasiment à tous les matchs. Et City, c'est pareil. Il renvoie d'un côté à l'autre jusqu'à ce que la défense soit déstabilisée et après passe en retrait but. Pourquoi
Quand
il fait
est-ce
pas
qu'il a
ça?
remetté, à quel moment il a remetté dans les matchs de Barça? À quel moment il a remetté sur Jordi Alba?
Il y a un but là, je viens de voir un but
Non, mais
là.
non, mais
Je viens de
juste
voir
il y a
un
but.
but là.
Il y a
Il y a
but.
but, il y a but, il y a but, il y a but, il y a
Ah.
but, il y a but, il y a but. Il y a but.
Oh, c'est la propre open lucarne de Samy. C'était dans les arrêts de jeu, ça, c'est le but face à l'Atalanta. C'est le but face à l'Atalanta. Débordement
Le choupeau,
d'Mbappé face en retrait pour Choupo. Eh oui, les gars. Vas-y, Dryas, reprends ce que tu disais.
Mais à quel moment, en fait, si tu veux, il les passes qu'il faisait à Jordi Alba quand la défense adverse était prise de vitesse, le moment où Jordi Alba était déjà dans la surface. Et donc, c'est des situations, ouais. Mais je pense que si tu arrives à recréer ces situations, si tu arrives à recréer ces situations, eh ben, tu retrouveras Messi qui sera en train de le faire. La problématique, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à prendre de vitesse, en fait, les défenses adverses. Voilà.
Juste pour revenir sur le jeu de Guardiola, jouer sans neuf, c'est très très bien, mais ça demande une chose. Là où Guardiola est très très fort, c'est qu'il désaxe le bloc adverse en faisant des passes latérales, latérales, revenir au centre et repart là-bas, etc. Donc il désaxe complètement le jeu adverse et surtout, à la perte du ballon, tu as un pressing qui est très rapide et très limpide pour récupérer le ballon et justement pour continuer à désaxer cette équipe. C'est-à-dire on passe à droite, patati patata.
Et
C'est
la
très très bien.
maximisation des récupérations
Voilà.
peut-être.
Donc voilà, c'est très très bien. Mais ça demande de jouer rapidement pour pouvoir désaxer ce truc. Et une fois que tu arrives dans la surface de réparation, ça va être Mahrez qui va ramener le ballon ou un autre. Clac, il remet une passe à son faux numéro 9 ou à quelqu'un, bim, but, ça passe. Parfait. C'est magnifique, c'est très très beau, etc. Au Paris Saint-Germain, je pense que déjà tu n'as pas cette capacité-là parce que les joueurs vont vouloir trop toucher le ballon. C'est la première chose. Et la deuxième chose, le 9, il sert à quoi le 9 en soi, si tu ne regardes pas dans le fait de marquer des buts. Le 9, il te sert à peser sur les défenses adverses. C'est-à-dire que le 9, pour un 9, tu n'as pas besoin de désaxer à tout prix les joueurs en passant à droite, à gauche, patati, patata. De par sa position naturelle là où il va obliger les défenseurs de la charnière centrale à être beaucoup plus vigilants à ses appels de balles et à sa manière de se déplacer dans la surface de réparation. Donc, ça t'évite de passer à droite, à gauche, etc. Donc, le jeu de Guardiola, il est très, très bien. Mais comme j'ai dit, quand tu arrives face à une équipe qui, eux, t'attendent, parce qu'ils attendent que ça. Ils attendent que ça, justement, que tu joues bas. Ils jouent très, très bas. Ils attendent juste que tu fasses tes passes pour ensuite prendre le ballon et envoyer un joueur qui est super rapide comme Kylian Mbappé ou Vinicius. Et derrière, lui, le joueur que tu envoies, il désaxe complètement le bloc que tu as mis en place de City. Et donc, but. C'est ce qu'a fait Madrid. Ils l'ont fait contre nous et ils l'ont fait contre City. Au Paris Saint-Germain, avec toutes les brèches qu'on a, tous les trucs qu'on a, si on se permet de jouer comme City, défensivement, on s'expose incroyablement parce qu'à la perte du ballon, personne ne fera les pressings.
Les gars, moi j'ai quelque chose à vous dire. On est 345 likes.
Allez,
345 en train de regarder. S'il n'y a pas 200 likes, Moi, j'appelle Véronique Rabiot ce soir et j'ai dit de ramener son fils au PSG. Quand il va venir, il va jouer, il va faire le fainéant sur le terrain. Ce sera de votre faute parce que vous n'aurez pas mis les 200 likes. D'ailleurs, parfaite transition. Qu'est-ce que vous pensez du possible retour de du fils prodige de Adrien Rabiot, le duc de Boulogne? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, moi, les histoires, déjà, j'ai même pas envie d'en parler. C'est juste que c'est pas un bon footballeur, quoi. Voilà, point. Next.
Je l'ai déjà dit dans cette, sur cette chaîne. Hein. J'ai tourné une vidéo avec le frère Rousseau. Et pendant 2 minutes, je crois, c'était à la limite. Pendant 2 minutes, j'ai tiré sur lui. Pourquoi? Je veux pas. Parce que déjà, il y a des histoires. Et puis, depuis son départ à la Juventus, il s'est encore plus empiré dans son football. On est d'accord, Grias? C'est encore pire. Son football, il est encore pire qu'avant. Pire qu'avant. Avant, il apportait un plus offensivement. Ça sert à rien de le nier. Hein. Rabiot, c'était un très très bon joueur au Paris Saint-Germain. Rabiot, il avait un potentiel énorme.
Match.
Il apportait quelque chose offensivement. Le problème de Rabiot au Paris Saint-Germain, il avait un seul problème. C'est qu'il était fainéant et il avait trop le boulard. Et à la Juventus, ça s'est accentué et en plus, il a perdu ce qui faisait sa force, c'est-à-dire son football. Non, pour moi, non, c'est pas une bonne idée. Je ne veux pas qu'il revienne au Paris Saint-Germain. Et puis s'il revient, non, même pas. Ramenez-le. Moi, je l'attends au Parc des Princes. Moi. Ramenez-le. Vas-y, Paris, ramenez-le.
Rabiot, c'est du Souviera avec ballon. Et sans ballon, c'est lui qui regarde l'action passer. Quoi. Donc, aucun intérêt.
Si la Juventus veut le faire partir, c'est pas pour rien. Hein.
C'était la petite parenthèse un peu rigolade de Rabiot. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'intrigue. Et vous avez dit qu'il faudrait qu'on joue à une touche de balle. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'avec l'effectif qu'on a, c'est vraiment possible? Là, parce que j'ai l'impression que vous rêvez, parce qu'il y en a trois. Il y en a trois, c'est complètement contre leur ADN. Tu prends Verratti, c'est anti-ADN Verratti. Tu prends Neymar, c'est anti-ADN Neymar. À la limite, Messi, il peut le faire, mais il faudrait qu'il le veuille.
Je prends la parole. Juste avant, deux petites secondes. Je ne demande pas à jouer en une touche de balle. Je te demande juste de jouer beaucoup plus rapidement. Vitinha ne joue pas en une touche de balle, mais il joue beaucoup plus rapidement. Tout simplement.
Vitinha sait jouer en une touche de balle. Il le fait régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'il le fait à chaque fois. Hein. Bien sûr que des fois, il y a des coups de balle. Mais de toute façon, là-dessus, Nick, c'est simple. Le débat, il est simple. Et la réponse, on la connaît tous. Et on sait tous qu'elle ne pourra pas être appliquée. C'est que tu ne peux pas jouer avec Messi et Neymar. Déjà, là-dessus, tu résous je ne sais pas combien de problèmes offensifs. Et tu ne peux pas jouer avec les deux. Point. Voilà. Bon, bah maintenant, après, c'est impossible d'en mettre sur le banc. On va jouer avec les deux et donc on aura une animation offensive. On sera en train de prier pour que Vitinha écarte sur les ailes. Et sinon, on sera juste en train de s'empiler dans l'axe. Ils s'empiler dans l'axe, ils s'empiler dans l'axe, en train de se dire « Ah, mais ça marche pas » et on continuera. Et puis voilà.
Mais en fait, c'est un truc de ouf. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on est tous assis là en train de dire que le navire, il fonce tout droit sur un iceberg, mais qu'on ne peut ni mettre Neymar ni Messi sur le banc. Donc, en fait, on va foncer sur l'iceberg pour la politique. Parce qu'on sait que ça ne marche pas. Mais vas-y, on continue, ce n'est pas grave. Parce que sinon, il y en a un qui va faire la gueule. Et entre guillemets, ça veut dire qu'eux, ils sont plus gros que le club. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il y en a un qui va s'asseoir sur le banc. C'est le club avant tout, je suis désolé.
Oui, je suis d'accord avec toi. On ne fonce pas sur un iceberg. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que des mauvaises choses au Paris Saint-Germain. Non, il y a de très belles choses. Et cette équipe peut faire très, très mal à n'importe quelle équipe. Elle peut faire très, très mal. Mais maintenant, il va falloir que tactiquement, les mecs comprennent que certaines choses, il faut arrêter de le faire. Et par rapport à ce que tu disais, non, moi, ce n'est pas forcément le jeu en une touche qui me dérange. Alors oui, j'aimerais bien que des fois, ça joue en une touche. Non, c'est juste qu'on apprenne à arrêter de toucher le ballon. Tu vois, j'avais ce débat-là avec un mec, un pote à moi dans l'espace. Et j'ai dit un truc, moi, une chose qui m'énerve, c'est les footballeurs, c'est lorsqu'ils mettent la semelle sur le ballon. La semelle sur le ballon, c'est uniquement des trucs que tu mets quand tu as envie de prouver « ich, c'est très, très beau. Hey, t'es pas au five. T'es pas dans un five. Tu vois, t'es pas dans un city, t'es pas je sais pas où, t'es pas dans un futsal. Faut arrêter avec vos histoires de semelle. C'est très, très beau à voir, c'est mettre la semelle pour la conservation de ballon. En 90e, tu mènes 2-1, allez, tu mets ta semelle pour conserver le ballon, c'est très, très beau. Mais quand il faut fluidifier le jeu, ça te fait perdre des secondes précieuses. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, ce que j'aimerais, c'est juste qu'on joue beaucoup plus rapidement et qu'on arrête de toujours se focaliser sur l'axe quand tu as des ailes comme Hakimi et Nuno Mendes qui sont des fusées et quand tu as des joueurs qui même au milieu de terrain, quand tu as des Vitinha, des Verratti, je pense qu'il faudra arrêter aussi de toujours vouloir conserver le ballon pour prouver que tu es un bon joueur, pour prouver que tu arrives à faire des petits trucs. C'est bon les gars, on sait que vous êtes des dribbleurs incroyables, mais vous n'avez plus les gens pour le faire.
Je croyais que Dreyes, il allait rebondir.
Oui, alors, il y a non, je suis d'accord. En soi, bien sûr qu'on a des joueurs qui, après, si tu en as un, c'est pas un problème. Mais on l'a déjà dit, Vitinha, c'est accélérer le jeu. En face, ça peut accélérer le jeu. Et devant, tu en as deux qui ont plus la vitesse nécessaire pour le jeu qu'ils essayent d'implémenter. Ça pose problème. Mais bon, après, tu vas pas te répéter à chaque fois. C'est tout le temps le même constat.
D'ailleurs, Angelo.
On n'est pas sur Paris Central Gaming, hein, mais je vous jure, sur ma vie, que si Neymar a encore 92 de vitesse sur FIFA, j'appelle IE, je dis c'est pas possible. C'est impossible, ce mec-là, il a 80, même pas.
D'ailleurs, Barry, pendant que tu es là, à ceux qui veulent jouer à FIFA avec nous, vous avez la possibilité de devenir membre de la chaîne Paris Central pour jouer à FIFA 22 et notre saison, mon petit gazon MPG. Donc faites vite parce que la saison va bientôt commencer. Donc tardez pas trop.
Angelo, on n'est pas en
2014. Et Neymar ne peut pas déborder à gauche comme si c'est Vinicius. Là, il arrive. Là, c'est en fait les deux, ils ont le même rôle. Donc c'est plus possible. C'est pas comme au Barça.
Tu reverras la vidéo, mais Dreyes, il a dit quelque chose de très très intéressant. Juste avant, il a dit que avant. Déjà, Neymar et Messi ont toujours perdu des ballons quand ils dribblaient. C'était pas le problème. Sauf qu'avant, bah, quand ils perdaient le ballon, c'était très rapide. Donc ils pouvaient le récupérer soit derrière ou même quand le dribble était mal fait, derrière, ils passaient quand même parce qu'ils avaient une vitesse de fou. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette vitesse-là. Donc quand Neymar tombe de dribbler trois joueurs, à l'époque, il était tellement rapide et tellement vif que même si son dribble était manqué, il arrivait à passer. Là, aujourd'hui, quand il tente un dribble face à trois Japonais, ça ne passera jamais. Surtout qu'en plus, tu es enfermé dans ton angle. Ça ne passera jamais. Alors oui, sur un coup de miracle, tu peux me dire que ça passe. Si les défenseurs se sont mal placés, comme Benzema l'a pu montrer contre l'Atlético Madrid, il fait un geste incroyable que tout le monde va ressortir. Mais en soi, c'est juste parce que les défenses adverses n'étaient pas bien placées et qu'il a eu un juste tempo qui était parfait. Mais en général, quand ils sont bien placés et que tu n'as pas la vitesse, ça ne passera jamais. Trois joueurs, on n'est pas dans Olivier Thomas. Ça ne passe pas.
Il y a Eve qui nous posait une question tout à l'heure. Elle nous a dit, selon vous, ce que vous avez vu au Japon, quelle sera la compo pour le trophée des champions face à Nantes?
Celle du dernier match.
Ouais, le dernier match. Avec Sarabia sur le terrain. D'ailleurs, on a oublié de le dire, mais Sarabia pourrait être aussi intéressant au faux numéro 9. Hein. Il l'a fait et il a très très bien joué à la position de numéro 9. Moi, je serais même plus d'avis de mettre Sarabia en numéro 9 et de déterminer qui sera ton 10 entre Neymar et Messi. Je dirais Neymar parce que Messi ne fait pas les replis défensifs. Mais voilà, de mettre à la pointe de ton attaque, mettre Mbappé et Sarabia, ça serait beaucoup plus intéressant que mettre Neymar, Mbappé et Messi. Mais ça revient à ce que disait Nyx. Il faut aussi assumer de mettre les mecs sur le banc.
Ouais, mais est-ce qu'il va avoir les coronets de le faire? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il a dit, il a parlé.
Nix, c'est impossible. Enfin, même là-dessus, tu vois, moi, je ne le retiendrai pas rigueur. C'est, imagine la pression que tu vas avoir, quoi. D'en mettre un sur le banc.
Je ne sais pas. Parce que les années d'avant, ce que tu dis, j'étais complètement d'accord avec ça. Là, maintenant qu'on est dans le contexte, où, entre guillemets, selon les sources, le Qatar veut se débarrasser de Neymar. Je ne suis pas sûr que là-haut, on va lui mettre la pression pour qu'il joue tous les matchs. À mon avis, sur ce côté-là, s'il y en a un des deux, il peut le mettre sur le banc. Je pense que ça peut être Neymar.
Ouais, je pense que ça va être lui.
Non, mais en soi, peut-être. Peut-être tu as raison et peut-être faut l'espérer. Mais j'en suis vraiment pas sûr. Parce que tu as les contrats sponsoring. Est-ce que tu connais les clauses des contrats de sponsoring que tu as signés pour avoir 100 millions pour 2 ans ou je sais pas, enfin je dis des chiffres au pif, hein, mais est-ce que tu les connais les clauses? Ça se trouve, tu as des clauses où t'es Neymar, tu dois le faire jouer s'il est là ou c'est machin. Tu vois. Je pense que c'est complexe, hein, c'est vraiment complexe. Tout n'est pas dans les mains de l'entraîneur avec des joueurs de ce niveau-là.
Oui, il y a un peu de ça, mais bon, je pense qu'à un moment, Galtier, il a quand même des coronets et je pense que s'il veut en mettre un sur le banc, il le fera. Mais moi, je suis d'accord. Les trois ensemble, c'est un non-sens. Et puis, je vais me répéter, mais Neymar, c'est incroyable. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit devenu aussi lourd. Ce n'est pas possible. Vraiment, il faut qu'il fasse un travail parce que je pense que Neymar n'est pas fini. Loin de là, je pense qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain. Mais il va falloir qu'il fasse un travail sur lui-même. Alors, je ne dirais pas qu'il faut qu'il maigrisse parce que, voilà, à un moment… Il a 30 ans, donc ça va être beaucoup plus compliqué de perdre certains kilos en trop. Mais il va falloir qu'il simplifie son jeu. S'il veut le jouer à 3, il faut qu'il y en ait un qui simplifie son jeu. Et donc, si Messi est numéro 10, le seul qui doit simplifier son jeu, ça sera Neymar.
Sur la note d'espoir sur ce sujet, sur le dernier match, les 30 premières minutes, j'ai trouvé qu'on avait un très très bon Neymar qui justement il ne cherchait pas à s'empaler, mais le naturel revient au galop après.
Mais sur les 20 dernières minutes du dernier match aussi, il faisait des appels incroyables.
Non, mais en fait, le problème, c'est que chacun des deux a un problème qui est un très gros problème, en fait. Parce que je pourrais me dire, t'enlèves Neymar et tu peux jouer simplement, parce que Messi, il sait jouer simplement. Ça veut dire, là, ça pourra jouer grave vite. Il joue plus simplement que Neymar, abuse pas, Z. Je vois, tu hoches la tête.
Pas sur les derniers matchs, hein. Pas sur les derniers. Il m'a tilté Messi aussi sur les derniers matchs, hein, sérieusement. Ah
oui. Donc, en fait, t'as Messi qui peut faire que ton jeu, il est plus simple. Mais de l'autre côté, t'as Neymar qui descend. Et que Messi ne descend pas. Donc en fait, t'en as un qui fait des retours défensifs. Et ça, c'est bien. T'as l'autre qui joue simple. Mais les deux, ils ont un défaut qui, collectivement parlant, en fait, ils te tuent. Les deux, ils te tuent avec leurs défauts. C'est un truc de fou.
Et même dans un monde parfait, tu pourrais arriver à une composition d'équipe sans aucun des deux. Hein.
C'est ça. Le vrai problème. Ouais, ça serait parfait. Non, sans les deux, je pense que quand même Messi pourrait apporter quand même quelque chose d'intéressant en 10, et Neymar aussi pareil. Non, il faudrait juste que les mecs acceptent que, bon, en fait, c'est surtout Neymar qu'il faut qu'il accepte qu'il faut qu'il simplifie son jeu. Parce qu'à la rigueur, Messi, tu vois, quand il essaye de faire ses petites percées balles au pied, c'est toujours pour éliminer les trucs. Neymar, j'ai l'impression qu'il veut encore jouer comme quand il avait 20 ans, c'est-à-dire terminer le joueur qui est en face de lui, tu vois. Quand il tourne son dribble sur les trois défenseurs, c'est pas pour apporter un plus offensivement. Non, c'est juste pour terminer les joueurs adverses, tu vois. Et ça, c'est inutile, tu vois. Messi, quand lui, il met ses percées, etc., ces petits trucs de souris, là, c'est pas pour terminer le joueur en face. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faudrait que Neymar arrête ça. Par contre, je suis sûr et certain que si Neymar simplifie son jeu avec Messi en 10, en sachant que Neymar fait les replis défensifs, ça pourrait être très intéressant.
Qu'est-ce que j'allais dire, putain? Asad, tu m'as sorti de mon truc. Bref, il y avait une autre question sur Navas, c'est que Galtier, il a clairement choisi Donnarumma. On a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, perso, je pense que c'est une bonne chose parce que, en fait, à l'instant T, Navas, il est meilleur, clairement, je pense qu'on le sait tous. Mais après, un bon gardien, ça coûte 80 millions. Et Leonardo, il a déjà quand même réussi à nous trouver un plus ou moins bon gardien gratuit. Et vous voyez, chaque année, comment on galère pour acheter des joueurs. J'ai pas envie, dans 2 ans, d'acheter un 80 millions. Et tu vois que le Real, ça fait déjà 4 ans qu'ils ont Tej Navas pour mettre un nouveau mec. Là, le mec, il a 4 ans de plus. Pour moi, c'est l'ordre des choses. Après, sur l'instant T, je suis d'accord avec vous que Navas, moi personnellement, j'ai plus confiance en lui, parce que même au Japon, là, j'ai vu le jeu de pied de Donnarumma. Franchement, j'ai peur. Je vous cache pas, j'ai peur. À l'instant T, Navas, c'est sûr. Mais dans une politique de gestion de club, là, tu t'es esquivé une dépense pendant 5-6 ans avec un gardien de niveau international. T'es obligé de le faire jouer.
Mais déjà, Navas, il commence à se blesser de plus en plus. Première chose,
bah oui.
Il commence à accuser le poids des dents. Et Donnarumma, il faut quand même se souvenir qu'avant le Real Madrid, tout le monde le kiffait. Et il y a eu cette crise, etc. Et maintenant, en effet, dès qu'il ferait un truc avec le pied, tu te mets à trembler. Mais il est peut-être légèrement moins fort que Navas sur la ligne, mais c'est légèrement. Mais par contre, en dehors du pied, pour toutes les actions, en fait, pour les actions de goal qui ne sont pas sur la ligne, il est bien plus fort que Navas. Hein. Les sorties, il n'y a pas photo.
Oui, ce que j'aime bien aussi, c'est que ces sorties font que ça nous permet de jouer un peu plus haut. Même à chaque fois qu'on a essayé de se faire prendre en contre-attaque par les Japonais, là, à chaque fois, ils sortaient. Et ça, c'est un truc. Franchement, son jeu au pied, c'est effrayant. C'est effrayant, les gars.
C'est peur.
On a déjà tourné une vidéo dessus sur Donnarumma et Navas. Et moi, mon avis, c'est que Donnarumma doit être numéro 1. Navas, il se blesse trop, il se blesse souvent. Il se rapproche de la fin de sa carrière. Et puis arrêtez votre comédie avec Donnarumma. Moi, ça commence à m'énerver, les histoires de ouais, il est mauvais, balle au pied. Regardez ce qu'il a fait à Madrid. Les gars, arrêtez votre comédie. Vous avez un top gardien là. Vous avez un des meilleurs gardiens d'Europe. Qu'est-ce que vous me racontez là? Qu'est-ce que vous faites passer Donnarumma pour Areola là, les gars? Arrêtez un peu. Non mais ça suffit. Moi, je suis fatigué d'avoir des mecs qui nous font passer Donnarumma pour Trapp. Vous êtes sérieux, les gars? Parce qu'à un moment, il a mis une tête et ça retombait sur un Japonais. Mais la tête, qui l'aurait mis? Qui l'aurait mis? Donc, vous pensez que Navas, il aurait mis ses têtes, il aurait mis un Neymar à la tête? Mais vous êtes sérieux, les gars? C'est une tête de dégagement. Il la dégage en catastrophe parce que la défense n'a pas bien fait son travail. Arrêtez la comédie, les gars. Navas, il a 72 ans, c'est le père Foura, les gars. Même si j'adore Navas, ça me fait énormément de mal de le dire. Mais Navas, il se rapproche de la fin. Et oui, il se rapproche de la fin. Que vous le voulez ou non. Mais il faut l'assumer aussi. Bah,
je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais c'est juste qu'il a un gros défaut, ce mec-là. Il a un très, très gros défaut. À ce moment-là, vaut mieux qu'il dégage le ballon. Ouais, vaut mieux qu'il dégage. Parce que avec les Japonais, encore, je l'ai vu. À un moment, il sort. Il doit faire un petit plat du pied pour le donner à Kimpembe. La passe, elle va pas jusqu'à Kimpembe, elle s'arrête à la moitié. Et il y a l'attaquant japonais qui fonce dessus. Mais chaque match, il fait dinguerie comme ça. Dégage le ballon, dégage, je m'en fous. Mais arrête de faire ça.
Mais sur l'histoire de la tête, vous avez cru, mais vous croyez c'est Ronaldinho ou quoi, qui arrive à la contrôler de la poitrine, il va la baisser dans son pied, boum, il va voir. Mais les gars, vous êtes sérieux là? Mais le ballon, il arrive sur lui, il dégage en catastrophe de la tête. Il va pas non plus gérer ou le ballon va partir, c'est une catastrophe.
Il y a des soucis avec ses pieds quand même. Faut appeler un chat.
Il y a certains soucis, faut qu'il travaille dessus. Mais vous n'allez pas me faire passer Donnarumma pour Areola, Trapp ou encore pour Sirigu, les gars. Non, mais arrêtez, ça suffit. Vous allez me dire quoi bientôt? Vous allez me dire que le numéro 1 devrait être Navas et le numéro 2 Rico? Tant qu'on y est. Mais arrêtez, les gars. Soyons sérieux, deux minutes, s'il vous plaît.
Allez, on lâche.
Il y a Cyril. Daria, s'il te demande, t'as qui comme joueur parce que tu nous fais une Riolo. C'est-à-dire, là, toi qui traites Basto tout le temps de Riolo, là, c'est tombé sur toi.
C'est-à-dire, Draya, c'est le surnom de l'ère glaciaire. C'est la dernière fleur qui survivait à l'ère glaciaire. C'est pour ça qu'on appelle comme ça l'ère glaciaire. Et donc, respecte le nom, si tu veux, parce que c'est le symbole de la dernière instance de beauté. Donc, tu l'écris bien, première chose. En fait, mais c'est juste que j'ai vu une évolution au niveau de la charnière où j'ai eu peur. J'ai concrètement peur parce que j'arrive pas à trouver à l'heure actuelle, compte tenu de l'effectif qu'on a et compte tenu des pistes qu'on a, j'arrive pas à trouver un 11 qui va être cohérent et qui va pouvoir fonctionner. Et du coup, je suis en effet inquiet. Alors après, si le fait d'être inquiet, ça me fait ressembler à Riolo, ben tant pis, j'assume, même si je peux pas tricher.
Bah écoutez, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé au Congolais, il a disparu de l'écran.
Il a pas aimé un truc.
Mais je pense qu'il voulait terminer le live, et bon, de toute façon, on a fait le tour des sujets.
Bah oui.
On a 1h26 de live, j'ai pas vu le temps passer avec vous, vous êtes plutôt sympa, franchement, dans les commentaires, vous m'avez bien fait rire. Normalement, en général, on fait des lives d'une heure, là, on a 1h26, bah merci à vous, j'ai pas vu le temps passer. Bah écoutez, il y a quelqu'un qui a demandé où est-ce qu'il est, tonton du bled. Tonton, il est en vacances, donc là, pour l'instant, vous allez devoir faire avec moi. Normalement, vendredi, il reprend les rênes du live. Et puis vous allez retrouver le tonton du bled. En tout cas, merci à vous, merci d'avoir suivi le Paris Central Show. Vous êtes de plus en plus nombreux et franchement, on kiffe. Surtout, avant de partir, s'il vous plaît, likez la vidéo. Franchement, je me répète, mais c'est gratuit et ça nous aide de fou. On ne vous demande pas de payer, pas d'euros, rien du tout. Juste appuyez sur un petit bouton, likez et on sera de plus en plus. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce qu'ici, c'est Paris et il faut qu'on soit encore plus. Il faut qu'on soit autant que dans le stade. Il faut qu'on soit 48 000. On veut 48 000 personnes en live, ok? Allez, bonne soirée Paris. C'était